Salut les amis, merci d'être là, très heureux de vous retrouver en ce lundi, en cette nouvelle semaine, en ce 12 août, on stream tout l'été, on a streamé tout l'été, on va streamer tout l'été, non Tom Cruise n'est pas là, randomer, putain je suis tout luisant, ah ouais, je me suis tartiné de crème, j'ai pris un coup de soleil ce week-end, Hélène mon amoureux c'est un petit lézard, elle adore le soleil et moi je suis avoir des racines irlandaises ou je sais pas quoi. Et ma peau ne supporte pas le soleil. Donc voilà, par amour, je suis resté au soleil ce week-end pour assister à un truc des Jeux Olympiques là. Et voilà, je suis tout boursouflé quoi. Mais une grenouille que tu laisses au soleil, voilà. Et du coup, je me suis tout crémé là. Et puis j'ai mis le ventilo à fond aussi. Je sais pas si vous avez chaud vous aussi ou pas là. Alors, dites-moi si au niveau du son ça va. J'ai un ventilo devant moi que je mets d'habitude en mode soufflerie très 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 légère là, ventilo silencieux quoi, voilà. Et là je l'ai mis vraiment plus fort quoi. Vous l'entendez pas? Ah ouais. Mais il fait trop chaud quoi. Ah, trop. Merci pour le retour sur le son, ça fait plaisir. Je suis pas le seul bardeur ventilo dans la gueule, j'en peux plus ouais. Ouais. Albi il fait chaud. 38-40 cet après-midi. Galaris 33 à Dunkerque. Dédicace à maman Céline. De la partie Sam. Arwen C, tu sais que je t'oublie pas. Hein. Je pense que ton petit message, je vais en parler à qui de droit, Arwen. Je ne t'oublie pas. Hein. J'étais bien en tête, bien en tête. Voilà. Bon, bah, alors, je suis rassuré pour le son, parce que là, d'habitude, je ne mets pas le ventilo aussi fort. Bon, ça va alors. Ah, imagine sans clim au bureau devant un PC dans un immeuble en tôle. Sticou, tu es dans un immeuble en tôle, au bureau, devant un PC, sans clim. Hop, hop, hop. Attends, je dis hop, hop, parce que il y a 5 minutes, j'ai vu que Joe était en live, mon ami Joe, et il nous raid à l'instant. Et c'était drôle, je m'étais dit, bah, je vais peut-être raid Joe tout à l'heure. Mais alors, ça veut dire que tu as commencé à streamer à quelle heure, Joe? 10h, t'as lancé à 5h du matin ou quoi? C'est incroyable, ça. C'est fou, ça. Mais attends, mais t'as lancé à quelle heure, Joe, ce matin? C'est incroyable. Salut, en tout cas. Merci beaucoup. Hey, Sam, t'as perdu le rasoir? Ouais, je sors de week-end. Je me suis surtout tartiné ce week-end. De crème plutôt que de me raser. Bah, j'ai un pote qui stream toute la journée. Hein? Me dit Joe. C'est-à-dire? Mais quel rapport avec... Mec, à 7h? Qu'est-ce que c'est les matinées à l'écriture? Joe nous dit qu'il a lancé son live à 7h pour les matinées à l'écriture. Attends. T'as lavé un live à 7h? Il faut bien que je trouve des horaires. Mais c'est quoi les matinées à l'écriture? C'est quoi la matinée à l'écriture? Je fais la pub de mon ami Joe. Quelle épreuve c'était? En fait, c'était pas une épreuve, c'était... Je suis allé au Trocadéro, tu sais, à l'endroit là où il y avait le village, je sais pas quoi, là où on pouvait saluer les athlètes qui montrent leurs médailles. Un endroit festif, quoi. C'était ouvert au public sans... Pas besoin de billets, rien du tout, quoi. Voilà, Hélène, elle a beaucoup aimé l'ambiance des jeux. Bon, moi, j'aime pas trop les foules. Et donc, je l'ai accompagnée à ce truc-là, quoi. Et donc, je suis resté au jour en soleil 4 ou 5 heures... Avec ma casquette, heureusement, sinon je serais pas là, je serais à l'hôpital. Et voilà, j'avais les bras, j'avais pas prévu de crème et tout, donc voilà, je suis un peu tout cramé. Voilà, je vous montre, c'est toujours très drôle. Ok, vous êtes prêts? C'est toujours très amusant, ça. Vous êtes prêts ou pas? Prêts? Donc ça c'est mon bronzage de ce week-end, ok? Ça c'est mon bronzage. C'est par amour, ça. Moi, j'aime pas le soleil. Le soleil m'aime pas, j'aime pas le soleil. Bah, c'est pas amour, ça. Ça, ça a l'air bronzé, en fait, c'est rouge. Hein. J'ai mal, là. J'ai mal, je prends ça fait 3 jours que je suis au Doliprane. Ouais, ouais. Ouais, ça sert à rien, ça. Bon, là, ça, c'est le bras droit, j'ai mal. Le bras droit, j'ai mal. Le bras... Oh, putain. Ah, puis j'ai mal esthétiquement aussi. Hein. Voilà. En fait, c'est rouge. Hein. J'ai super mal. Ouais. Donc ça, c'est par amour. Hein. Moi, j'aime pas le soleil. Voilà. Attendez. Donc moi j'avais une casquette, heureusement, sinon je serais vraiment littéralement à l'hôpital. Et ça c'est mon cou, ça. T'as le cou, c'est incroyable. Voilà. T'es mal le cou. Le pire c'est que je suis pas blanc. Hein. J'ai pris un peu de soleil de la Corse en juillet, donc en fait j'ai le corps légèrement doré, mais c'est le différentiel en fait. Voilà. Là je suis. Voilà. Et framboise dit, et en plus dans le cou ça fait giga mal. Ah bah ça fait 3 jours que je suis Doliprane là. Je souffre. Ça, c'est par amour. Et après, ça va peler, ça va être magnifique, me dit Fanny. Ouais, je sais. Ouais, je connais. toute mon enfance, ma jeunesse. C'est pour ça que je ne m'expose pas au soleil. Moi, quand je m'expose au soleil, c'est avec de la crème. J'ai appris à mettre de la crème, à me protéger. Quand j'étais enfant, dans ma génération, on n'avait pas toute cette prévention sur la protection de la peau. Heureusement, d'ailleurs, qu'on a progressé là-dessus. Hein. J'ai une peau qui va pas au soleil. Tous les ans, je vais voir le dermato pour respecter, vous savez, les grains de beauté, tout ça, pour être sûr. Et donc, moi, ça fait très longtemps que je ne m'expose plus au soleil. Parce qu'en fait, un, on s'en fout. Et deux, c'est pas bon pour ma santé, en tout cas, moi, avec mon capital de peau. Quoi. Et là, je me suis retrouvé piégé. Quoi. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout prévu de rester 5 heures au soleil à ne pas bouger. Quoi. Et j'ai failli défaillir. J'ai failli tomber dans les pommes, en vrai. Ouais, mais par amour, moi, je suis resté. Hélène, ça lui faisait plaisir, ce truc-là. Voilà. Je sais, Arwen, c'est ta raison. Soleil, première cause de cancer de la peau, on le rappelle. Attention, moi, j'y vais une fois par an, je vais voir le dermato. Et que je ne m'expose jamais au soleil, moi, en plus. Et puis, je mets de la crème 50 tout l'été et tout. Petite routine impeccable. Juste là, je me suis laissé piéger par l'amour. Voilà ce qui s'est passé. Maurice Muche, merci beaucoup pour le Prime. Griotte 2, merci pour le 33e mois d'abonnement. Oui, mon capitaine, merci pour le 17e mois. Aélis, merci pour le 8e mois. Luchik, merci pour le Prime. Cyril, merci pour le 30e mois d'abonnement. Azari Hamza, merci pour l'abonnement offert à la commu. Joe, j'ai vu que tu m'avais expliqué ce que tu faisais le matin, je vais aller voir là. Ça m'intéresse. Jameson, merci pour le 29e mois d'abonnement en direct de Stockholm, s'il vous plaît. La Tote, merci pour le 24e mois d'abonnement. Les Ming 67, merci pour le 36e mois d'abonnement. C'est le maximum. Hein, c'est 3 ans d'abonnement consécutif. On ne peut pas être au-delà. Merci les Ming. Donc tu as le fameux badge, le nouveau badge que je trouve très joli là, avec la gold cafetière, la cafetière en or. Merzette, merci pour le 8e mois. Tobit pour le 32e mois, c'est beaucoup. Aebco pour le 6e mois. Voilà. Et vous êtes formidables. Alors Joe nous a expliqué ce qu'il faisait le matin à l'atelier d'écriture. Marcos régale et vient offrir 5 abonnements à la communauté. Je disais 8 parce qu'il y a un 8 dans ton pseudo. Merci pour les 5. Si je tape user, Joe Coco. Bon, l'explication de Joe sur matinale écriture. Là. Non, c'est slash user plutôt. Voilà. Alors Joe, il nous a expliqué ce que c'était les matinales écriture. En gros, je bosse 25 minutes avec les gens, puis on discute 5 minutes et ça en boucle. Hein, c'est bien. Mais écriture de quoi? De projet? Ouais, c'est intéressant en tout cas. Merci mon Joe pour le raid. Merci Pissi Kutsu pour le prime à l'instant. Allez, on discute un petit peu et puis je vous fais un petit sommaire de la revue de presse pour ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous. C'est ce que je fais le plus souvent sur Twitch, même si je fais d'autres choses et notamment je me suis pris de passion pour l'univers du jeu vidéo, vous le savez. On lit les journaux. On lit les journaux ensemble. Ça nous permet de nous tenir informés de la marche du monde, ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Et deux, ça nous permet d'échanger aussi, voilà, de débattre de façon la plus apaisée possible sur tous les sujets. Quoi. Voilà. Donc on fera un sommaire. En 2-3 minutes, vous aurez l'essentiel de l'actu. Puis après, on en parlera pendant 2-3 heures en lisant les articles et en prenant le temps. Mais d'abord, je vous lis un petit peu. C'est Joe Gabriel. Je n'ai pas saisi le nom du streamer qui fait les live écriture. Quelqu'un peut me filer le lien ou le nom SVP. C'est Joe. Alors je pense que c'est quand il dit écriture, je pense que c'est écriture sur ses projets. Ou peut-être du codage informatique aussi. En tout cas, tu tapes point d'exclamation Joe, parce qu'il y a un raccourci sur cette chaîne, et tu as la chaîne de Joe. D-J-O-W. Voilà. Tiens, vous savez quoi, je vais même l'épingler. Merci SugarFrog. Ça a été hier soir pendant la cérémonie de clôture. Bah non, pas trop en fait. Pas trop en fait. Hein. Moi, je, comme beaucoup, je me suis mis devant mon poste de télé hier soir à 21h avec Hélène en me régalant par avance parce qu'on s'est tous un peu fait piéger, je pense. Hein. On s'est pris la cérémonie d'ouverture dans les yeux. On s'est dit waouh, c'est quoi ce truc? C'est quand même une cérémonie de fou quoi. Hein, et inventive, bousculante, surprenante. Enfin voilà, moi qui ai. Je me suis surpris à regarder la télé pendant 4 heures, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très garçon, très très longtemps. Merci Despotique pour le 36e mois d'abonnement. Théo Max. Et donc je me suis mis devant ma télé hier dans le même état d'esprit en me disant waouh, qu'est-ce qu'on va prendre dans les yeux. Et puis, c'est très subjectif. On ne juge pas l'intention artistique et le travail des gens, mais je me suis fait chier quand même. Voilà. C'est très subjectif. Hein. Après. C'était pas nul, c'est juste que par rapport à la cérémonie d'ouverture, c'était déceptif, quoi, parce que du coup, je pense que les gens s'attendaient à plus, quoi. Moi, j'avais dit à mes enfants qui sont avec leur grand-mère en ce moment, regardez, ça va être incroyable. J'ai dit à mon papa juste avant, 5 minutes avant la cérémonie, ah, il faut que tu regardes, ça va être incroyable. Enfin, tiens, j'ai vendu le truc, quoi. Et après, je me suis dit, les gens à qui j'avais dit, regardez, ça va être ouf. En plus, je vous en avais parlé dans la revue de presse, on a trouvé des articles sur le fait que, ouais, il y allait avoir les Red Hot, tout ça et tout. Et ils étaient là, mais bon, voilà quoi. Bon, on va en parler. On regarde jamais les cérémonies de clôture aussi, d'habitude c'est pour ça. Hein, petit axe. J'ai l'impression que même les commentateurs, ils s'ennuient un petit peu aussi. Ouais, c'est souvent moins bien. Ah ouais. Mais on était mal habitués par la cérémonie d'ouverture. Quoi. C'est plus normé, comme dit Cruel Monster. Ouais, ça, pour être plus normé, c'est plus normé. Ouais. Coucou Alexandra, j'ai vu ton message, j'espère que tu vas bien. Ouais. Hein, c'est Zla qui pose la question et qui a déjà eu dans l'histoire des jeux une cérémonie de clôture pas naze. Ouais. C'est comme quand tu fais rentrer ton neveu dans la boîte pour un CDD, il en fout pas une, patron, t'en veux à toi, dit Arwen. Ouais, ça sent le vécu, ça. Ouais. C'est toujours gênant, ça. Merci Acmegirl pour le 5e mois. Merci Signatem pour le 16e mois. Merci Nyandra pour le 18e mois. Merci Claire Dodi pour le 36e mois. C'est le maximum. Hein. La chaîne a 4 ans, mais les subs ont été ouverts pas tout de suite. J'ai attendu il y a 3 ans et on ne peut pas être au-delà de 36 mois de subs. C'est ouf. Merci QuickQuick 222. 36 mois aussi. 34 mois, c'est ouf. Émérant 30 mois d'abonnement. Mais c'est quoi cette fidélité de fou là? Il paraît qu'on est dans une société où la fidélité n'est plus une valeur. Regardez-moi ces abonnements de fou. Et du coup, vous avez démarré un train de la hype. Il y a quoi après la cafetière dorée? Ah ah! 36, après, c'est 6 mois de plus, je crois. Après, c'est 6 mois, je crois. 36, 38 mois, je crois. Et il y aura une jolie cafetière, mais d'une autre couleur. Ah, faut attendre 4 ans? J'ai fait tous les ans, t'es sûr? Je n'ai pas fait dans 6 mois? Ah, je pense que j'ai dû faire 6 mois de plus, non? Non? Je pense qu'ils sont déjà accessibles, les badges. Fidèle au streamer, mais pas en amour, me dit Pierre-Yves. Hein? Ah, c'est 4 ans après? C'est cafetière rouge? D'accord, ok. Ok, bon bah, ceux qui auront la cafetière rouge, bordel! Bon, déjà, ceux que vous voyez comme Minos, là, avec la cafetière gold, la cafetière shiny, comme tu le dis, c'est 3 ans d'abonnement consécutif. Ouais. Ah, Sugarfrog me confirme, c'est 3,5 ans. Bien sûr, Newcastle, que 3 mois, c'est bien aussi. Il y a un badge pour les 3,5 ans, c'est bien ce que je pensais. Je sais parce que c'est moi qui m'en occupe. Voilà, cafetière orange, 3 ans et demi. Cafetière rouge, 4 ans. Donc il y a une cafetière gold pour les 3 ans. Il y a une cafetière orange pour les 3 ans et demi. C'est pas gold, c'est orange. Et une cafetière rouge pour les 4 ans, sachant que tous les badges ici d'abonnement sont dans l'univers du café, puisque c'est un petit peu mon petit péché mignon. Donc au début, on commence avec une petite tasse à expresso, avec plus ou moins de sucre. Après, il y a des mugs, il y a des thermos, voilà. C'est un peu mon addiction, ouais, Magotan, ouais. C'est ma potion magique, exactement. Merci Mathis Vad pour le 6e mois. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai pas streamé dimanche. Towoli, merci pour le 4e mois. J'ai pas streamé dimanche, alors que cet été, je stream, vous le savez, quasiment tous les jours, parfois deux fois, parfois 3 heures par jour. J'ai pas streamé dimanche. Pourquoi? Exceptionnellement, j'ai pas streamé dimanche, alors que normalement, j'aurais dû streamer dimanche soir du Elden Ring, à votre avis. Merci Fizorem pour le 27e mois. 30, ouais, mais 30 mois en fait même. 30 mois même. Bon, la clôture. Ah oui, il y avait la clôture, mais en fait, j'avais prévu de streamer après la clôture. Je peux même vous dire que la cérémonie de clôture, je la trouvais tellement ennuyeuse que si j'avais été en forme, j'aurais streamé avant la fin, quoi. Merci Daria pour le 13e mois. Les JO, les vacances, la famille. Ouais, non, je ne me matais pas du marathon parce que je ne l'ai pas couru. Non, en fait, c'est parce que. Il y avait deux choses qui... Non, pas cuite, je ne bois plus l'alcool. Non, il y a eu deux choses. Il y a eu vraiment le coup de soleil. Le coup de soleil de samedi qui m'a épuisé. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte. Ça m'a vraiment épuisé. J'étais crevé. J'ai traîné toute la journée. En plus, avec Hélène, on profite de l'absence des enfants pour ranger la maison, ranger les jouets des enfants, ranger les chambres, faire des petits trucs et tout. Donc voilà, on a bien bossé dimanche. Donc j'étais crevé et le stream de samedi, de quand? Samedi soir? Quand est-ce qu'on a fait? On a fait un stream Valo, je crois. Le samedi soir, je crois. Qui m'a épuisé. Qui m'a séché. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait que je ne progresse pas. Samedi soir jusqu'à 4h. Voilà. Samedi soir jusqu'à 4h du mat à peu près. Et ça m'a... Alors, c'était un long stream, mais surtout, le fait de tout donner, de ne pas progresser trop... Ça m'a séché, quoi. Ça m'a... Voilà. On raid qui à 4h du matin? On a trouvé. D'ailleurs, on en a parlé de ce raid avec les modos après, parce que... Bon, il y a eu un petit souci dans la communauté du streamer qu'on a raid. C'est le principe de la progression en escalier. Tu as des longues périodes où tu penses stagner, me dit Erepsioul, pour me consoler de mon faible niveau sur Valorant. Le problème, c'est que moi, l'escalier, je... Ouais, non, mais merci au moto d'ailleurs, vous êtes précieux. Hein. Le problème de l'escalier, c'est que c'est un escalier qui descend, moi, si tu veux. Ma progression sur Valorant, c'est un escalier qui descend. Et voilà, là, littéralement, je crois que je suis retombé faire 1. J'ai démarré faire 2 dans ce jeu il y a 6 mois. Bah, j'ai l'impression de progresser, vous me dites que je progresse, je suis faire 1. Si, je suis faire 1. J'ai pick bronze 2, je suis faire 1 et je donne tout. Alors que je bosse mon aim, je bosse mon crosshair placement, je bosse mes strats, je bosse plein de nouveaux personnages pour comprendre le jeu, je sais moins de détails. Quoi. Je suis. Tu es remonté faire 2 samedi. Non, je crois que je suis faire 1, je sais plus. Ouais, ça m'a épuisé, quoi. C'est un escalier qui descend, moi. Ta progression sur le ring prouve que tu es aussi bon que n'importe qui plus jeune. Oh, vous êtes trop mignon. Ouais. Bon, en tout cas, cet après-midi, on va jouer. On va jouer, je sais pas, peut-être du Valo, peut-être du Elden Ring, peut-être du Apex. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Merci Manuel 27 pour le 25e mois. Merci Tiam 129 pour le 23e mois. Merci Benji Prod pour le Prime. Peut-être du Apex. Ouais, peut-être du Apex. Je vais tenter Apex. Pas pour le Fight for Sub. Oui, c'est vrai qu'il y a un... Je crois que Zera a lancé un... C'est quand le Fight for Sub de Zera sur Apex, FFS ? Je ne suis pas inscrit en plus. Non, je ne suis pas inscrit. C'est vendredi 16 août. Ouais, il serait temps, hein. Regardez, hop, je vous montre. Je suis sur la... C'est Zera qui fait des compétitions FFS. J'en ai fait un sur PUBG, on a bien rigolé. Fin d'inscription, jeudi 15 août. Je peux encore m'inscrire. Il faut une équipe. Il faut une équipe. Ah, on va jouer en solo. Ah, un équipe de 3 joueurs. Ah ouais, personne ne va vouloir jouer avec moi. Ouais, c'est impossible. Ouais, mais c'est pas là. Bah, oublions le FFS parce que personne ne va vouloir jouer avec moi. Enfin, ou alors juste pour rigoler, quoi. Hein ? Joue avec Fichu ? Avec Fugu plutôt, non, Sofiane ? Remarque, si je joue avec Fugu, je serais pas Fichu, du coup. C'est quand ça ? C'est quand ? Vendredi 16 août. Quelle heure ? 20h ? Ouais. Non, je vais pas faire une compétition d'un jeu que je découvre que je vais découvrir 3 jours avant, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est pour. Mais je vais peut-être jouer à Apex pour une autre raison. Pour une autre raison. Et d'ailleurs, je n'en dis rien. Je ne dis rien de plus pour l'instant, mais réservez votre soirée de mercredi soir. Mercredi soir 20h, il y aura un event. Sur Apex, sur plusieurs chaînes de streamers, streameuses, plutôt streameuses d'ailleurs, ce qui est très bien pour la mise en avant du gaming et de l'e-sport au féminin, sur Apex, et notamment sur ma chaîne. Voilà, je poste un petit visuel en fin d'après-midi. C'est mercredi soir, comme je vous aime bien, j'en dis un peu plus. C'est un joli event, c'est un truc un peu, voilà, un peu bossé, un peu préparé. Je suis pas l'organisateur, mais je suis un des participants. Okay. Indice en bas de votre écran, mercredi soir, 20h, Apex. Et indice supplémentaire, pizza. Oui, mesdames et messieurs. Merci, Mini Moonster, pour le 3e mois. Merci encore, Tiam. Voilà. Mercredi soir, 20h, Apex, event, pizza. Voilà. C'est tout ce que je dis. Voilà. Je ne peux rien dire d'autre. Petit visuel en fin d'après-midi. Voilà. Et donc, si je suis fou et que j'arrive à trouver une équipe, pourquoi pas le FFS, mais là, elle va pas durer longtemps. Quoi. La partie, si je fais ça. Bah, donc, c'est pour ça que je pourrais peut-être lancer peut-être du Apex ce soir, par exemple. Voilà. C'est quand le G-Event ? C'est le premier week-end de septembre. Ouais. Et on se régale d'y participer. Je suis tellement heureux, tellement fier de participer aux The Event. Voilà, on a bossé il y a quelques jours sur les Donation Goals avec la communauté. Je pense que bon, je vais les mettre en forme, je vais les poster une semaine avant, je pense. Mais je suis très content. Ouais. Je suis très heureux de participer à ça. On a une rentrée un peu chargée, quoi. Et bravo pour le train de live qui vient de se terminer. Bientôt, je vous ferai un petit raccourci pour avoir accès au Donation Goal. Les Donation Goals sont validés par tous. Comment ça, validés, Tom Thompson? Validés par qui? Non, je suis pas au courant, justement. Traoré 5, Winsam, tu as eu vent de l'arrêt pour les Donation Goals cette année, mis en place par Zera. Tu as vu que les Donation Goals doivent se faire pendant le The Event, sauf un. Ah, mais il faut refaire, alors. C'est officiel ou pas? Il m'en a pas parlé, Zera. Il a annoncé où? Tous les Donation Goals doivent être faits pendant le The Event, sauf un. Mais il a annoncé où? Sur le Discord de The Event? Ben, pourquoi je suis pas sur le Discord, moi? J'ai pas reçu une invitation pour le Discord. J'ai dû rater un mail. Car certains ne les faisaient pas. Tu veux dire, tout le monde ne le faisait pas. Il y a un Discord. Je ne suis pas sur le Discord du G20. Il y a déjà un Discord? Vous êtes sûr? Mais ouais. Bizarre. Bizarre parce que moi, je suis en échange avec Zera sur ça. Merci, Julo. Et il m'a rien dit. Donc moi, toujours, c'est le défaut du journaliste. On me dit, ah, mais machin, on a parlé hier. Bon, vous savez comment je suis. C'est pas, je suis sceptique, mais mon travail de journaliste, c'est de vérifier les infos et de retourner à la source. La seule personne qui peut dire ça, c'est Zera. Donc si je n'ai pas l'info par Zera, l'info n'existe pas pour moi. Xanax, ah non, c'est faux. Xanax dit, salut Samuel, tu n'aurais pas sous-estimé l'impact des jeux sur les Français. Au début, tu nous as dit que tu ne comprenais pas le triple JO. Ah non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Moi, je me suis étonné de tous ceux qui disaient que ça allait être de la merde. Et pendant des mois, j'ai dit, c'est quand même bizarre, comment on pouvait dire que ce truc va être raté alors qu'il n'a pas eu lieu encore. Attendons l'event, les Jeux Olympiques, et voyons. Si c'est de la merde, on le dira. Si c'est top, on le dira aussi. Ça, c'était mon discours. Après, moi, je ne suis pas hypé par le spectacle du sport. Je ne vais jamais voir des matchs de foot. Je ne vais jamais prendre des billets pour un stade. Donc ça, c'est ma culture à moi. Familialement, je n'ai jamais été sensibilisé à ça. Quoi. J'aime faire du sport, mais je ne le regarde pas, le sport. Donc je ne vais pas me forcer, je ne vais pas vous dire « Ah, j'ai kiffé regarder les Jeux, je n'ai pas regardé les Jeux. » Donc je ne juge pas ceux qui aiment le sport. Les compétitions de sportives ou de foot et autres drainent des milliers de personnes dans les stades et je ne juge pas ça, c'est très subjectif. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai jamais dit que je comprenais pas la hype autour des jeux. Alors, en revanche, j'ai dit les gens qui sont très sceptiques sur la réussite des jeux, bah peut-être attendez peut-être les jeux, puis on verra. Si c'est réussi, on le dira. Et si c'est raté, on le dira aussi, quoi. Je m'étais plutôt moqué de ça. En revanche, c'est pas les jeux qui vont me faire regarder le sport à la télé. Je le regarde pas. C'est pas mon plaisir. C'est marrant parce que pour l'instant, personne ne me confirme l'info par Zerator, quoi. Jamais été au Roison Park, bah si, la Pesto quand même. Bah, parce que je suis breton, mais j'y vais parce que je suis breton, pas parce que je regarde le foot, quoi. Ouais, Yarwen C qui dit ça me paraît bizarre, ça ressemble pas à Zera de contrôler ce terrain-là, des streamers. Je suis assez d'accord, ça oui, c'est, oui. Oui, c'est vrai que ça correspond pas trop à la philosophie de Zerator d'être très encadrant comme ça. Sur les Donation Goals, par exemple, en obligeant qu'ils soient tous réalisés pendant le. Voilà. Ouais. Pendant les events. Donc, plusieurs streamers l'ont dit en live. Alors, Psychose, encore une fois, mais ça, c'est. Je pense que c'est parce que tu n'es pas habitué à cette chaîne. Ici, on est sur une chaîne où on fait très attention à la rigueur et aux sources de l'information. Et. Certes, plusieurs streamers l'ont dit, donc c'est peut-être une info, mais comme ce ne sont pas eux qui décident, ce n'est pas la source de l'information. Voilà. Si, tant que je n'ai pas Zerator qui me dit, moi directement ou publiquement, dans un tweet ou quelque part, que cette règle est en place, ça n'est pas une information. Le pape peut l'avoir dit en stream. Macron peut l'avoir dit en stream. Tony Estanguet, je m'en carre le cul. Ce n'est pas une info. Il faut que Zera le dise. C'est comme ça qu'on se protège de la désinformation, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que pour l'instant, la source que vous me donnez n'est pas suffisante, en fait. C'est comme ça qu'on se protège en partie de la désinformation. Il va falloir contacter Zera. Bien sûr, bah oui, c'est ce que je vais faire. D'autant que j'ai d'autres questions à lui poser. Regarde le Discord de l'event. Bah, pour l'instant, moi, j'ai pas été informé d'un Discord. Ouais. Parce que moi, pour l'instant, moi, j'ai pas l'info même qu'il y a un Discord du The Event. C'est ça qui est bizarre. Normalement, quand tu participes à un événement comme ça, et en plus organisé par Zera, qui est quelqu'un qui organise très très bien les choses, moi j'ai participé à plusieurs choses avec Zera, la ZLAN, le FFS, le Fight for Sub sur PUBG, bon bah tu reçois un mail, tiens le Discord il est là, tu fais ci, c'est super encadré, on te prend par la main, let's go quoi. Là sur le The Event par exemple, moi j'ai beaucoup d'infos, mais je n'ai pas l'info de l'existence d'un Discord par exemple. Mais c'est intéressant. Allez, on y va. Mais c'est intéressant parce que c'est une façon aussi de faire de la pédagogie sur comment vérifier une information. Quoi. Carole, CGM, merci pour le 32e mois, c'est énorme. Rika, Nima, merci pour le 3e mois, merci beaucoup. Homme, man, merci pour le 8e mois. Et est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire de la revue de presse? Prêt? Vous êtes prêts? On y go? Je vais baisser ce petit ventilo et on y va. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. C'est marrant parce qu'il y a une petite règle non écrite que l'introduction dure 30 minutes sur cette chaîne. Et même sans faire attention, même qu'on a l'impression de traîner, regardez, ça fait 30 minutes, c'est incroyable. Hein? Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce matin dans les journaux? Vous êtes prêts? Il y a Ilas qui dit quelle tristesse de se réveiller dans cette nostalgie des Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a les Jeux Olympiques, on a le bilan des Jeux Olympiques et on a la projection vers, à mon avis pas assez d'ailleurs, les Jeux Paralympiques. Hop, je vous mets la scène. Donc soyez pas surpris, il y a beaucoup de une ce matin sur les Jeux. Le Parisien dit merci. Merci à ces Jeux, merci à l'organisation, merci aux athlètes qui nous ont fait rêver, les athlètes français et tous les athlètes bien sûr. Le Parisien qui parle d'une incroyable quinzaine qui doit sa réussite au travail acharné des organisateurs, à leur folle vision et à la mobilisation aussi de milliers d'anonymes. Difficile de se dire au revoir, certains parlent de nostalgie des Jeux. Je crois que même il y a quelqu'un, un journaliste ces derniers jours qui a inventé un concept, il a appelé ça la jostalgie, la géostalgie, hein, la jostalgie. Ces Jeux inoubliables se sont achevés ce dimanche soir avec une cérémonie de clôture moins spectaculaire que l'ouverture. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera. Mais les Jeux paralympiques, dès le 28 août, sont la promesse d'un retour de flamme. Impossible n'est pas français, écrit Pierre Chausse, directeur délégué des rédactions, qu'on a reçu d'ailleurs ici sur cette chaîne. Paris gagné, petit jeu de mots pour le Parisien. Quels sont les paris gagnés? Ben, sur les images iconiques de ces Jeux, sur la ferveur populaire, hein, qui a été très très forte, sur le nombre de billets vendus pour ces Jeux, toujours le Parisien. Alors maintenant, il faut peut-être ne pas en rester là, hein, et espérer qu'on va garder quelque chose de ça dans l'esprit ou dans les conséquences sur le sport en France, entretenir le feu sacré, le résultat d'une politique volontariste de moyens exceptionnels qui doivent continuer pour que les Bleus brillent à Los Angeles. On sait que l'une des raisons pour lesquelles les Français ont eu un nombre de médailles records à ces Jeux, c'est en raison des moyens engagés dans la préparation. Donc certains disent bah, peut-être que ces moyens un peu exceptionnels pour ces Jeux à domicile, peut-être qu'il faut les maintenir. Libération, très belle une. Bon, tous les journaux ont été hypés hein, pendant les Jeux. très intéressant parce que moi, je vous lis des journaux qui ne sont pas d'accord entre eux en général, qui ont des lignes éditoriales différentes, des sensibilités éditoriales, intellectuelles, poétiques différentes. C'est assez rare qu'ils soient d'accord. Et là, tous les journaux cette semaine, Le Figaro, Libération, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, etc., ils sont tous d'accord. Voilà, c'est réussi. Vous ne trouverez pas un journal pour dire que c'était raté. Certains journaux, la plupart, disent, attendez, il y a des trucs qui n'ont pas été réussis, des choses dont on a parlé régulièrement ici, hein, la question de l'éloignement des SDF de la capitale, hein, quelque chose d'avéré, la question des logements de Crous étudiants, avec ces étudiants qui ont été mis dehors pour faire de la place. J'ai fait une faute d'orthographe. Oui, un journal. Oui, peu importe. C'est de l'oral, on s'en fout. C'est du live. Si vous prenez toutes mes fautes d'orthographe sur 5 heures de live, vous allez pas vous ennuyer. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas parfaites. En revanche, globalement, vos journaux disent que c'était un événement réussi, quoi. Tas de beaux jeux, titre Libé ce matin. Ferveur populaire, organisation sans faille, record de médailles tricolores. Pendant 15 jours, la France a savouré la réussite de ces jeux qui se sont clos dimanche, place désormais aux Jeux paralympiques à partir du 28 août. Libération est un des journaux qui parle le plus des Jeux paralympiques. Je trouve qu'on n'en parle pas assez personnellement. Un moment hors du temps, ces Jeux. Voilà, aux Jeux paralympiques que la fête continue. Ça, je vais vous en parler, moi, parce qu'il faut vraiment que ces Jeux paralympiques soient réussis. Je trouve que c'est important pour les personnes d'abord en situation de handicap, parce que c'est aussi une façon de sensibiliser le grand public à ces questions-là. D'abord, et puis pour notre pays aussi, qui, à mon avis, aurait tout honneur à réussir ces Jeux paralympiques comme ils ont réussi les Jeux olympiques. C'est quelque chose dont je vais pas mal vous parler les 15 prochains jours et puis après pendant la durée des Jeux paralympiques. Paris 2024, le jeu de tous les records, c'est la une du Figaro, qui évoque cette cérémonie de clôture hier soir, joyeuse, mais plus protocolaire que celle du début des Jeux. Je me suis un peu ennuyé, moi. Voilà, inoubliable jour de France, titre le Figaro. Le sport en héritage. Qu'est-ce qui va rester de ça? Ben oui, parce qu'on s'est régalé pendant 15 jours, mais ce qui serait formidable, c'est qu'il en reste quelque chose. Par exemple, sur le sport au quotidien en France, que ces Jeux donnent envie aux Français de faire plus de sport. Voilà. L'intensité et la beauté des JO qui sont achevés dimanche devraient avoir un effet stimulant sur la pratique sportive en France, espère par exemple la Croix. Yannis Léris, merci beaucoup pour le 13e mois. Après les Jeux, il va y avoir du sport. Et moi, je reste tranquille, j'ai envie d'ajouter. Voilà, on lira la croix là-dessus ce matin. L'Humanité, le journal est séduit aussi, plein les Jeux. Voilà. L'Humanité qui, comme d'autres d'ailleurs, rappelle qu'il y a des trucs qui n'ont pas été réussis. Hein, voilà. Tout n'est pas parfait. C'est pas parce que globalement, l'event était réussi qu'il n'y a pas des choses qui n'allaient pas sur la question des SDF, sur la question des étudiants, etc. L'Humanité nous fait un petit paragraphe là-dessus. Non pas pour critiquer les Jeux, mais pour dire qu'effectivement, tout n'était pas parfait. C'est important de ne pas se mettre des œillères. Hier, par exemple, moi, j'ai fait des petits tweets qui se voulaient drôles. Bon, c'est très subjectif, l'humour. En disant que je me faisais un peu chier devant la cérémonie de clôture. Et il y a deux, trois personnes qui étaient en mode « Ah, ça y est, les grincheux ont repris le pouvoir. On repart comme avant. » Non, ben non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que les Jeux étaient réussis qu'il faut être... qu'il faut nier qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément parfaites. Au contraire, c'est avec un regard, avec prenant en compte le positif et le négatif, et les choses effectivement ratées aussi, qu'on peut avoir un regard un peu objectif sur les choses. Donc c'est pas parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que la cérémonie de clôture était un peu chiante que j'ai pas trouvé que les Jeux étaient formidablement réussis. Vous voyez, et c'est pas parce qu'on a trouvé les Jeux réussis qu'on est obligé de dire que la cérémonie de clôture était réussi. Hein. Je pense que c'est pas la peine de se mettre des œillères. Julien, merci pour le 36e mois d'abonnement. Ah, c'est trop mignon. Merci pour ton message. Et merci pour les 36 mois. Jeff, comment vas-tu? Jeff est de mon mieux. Merci pour le 33e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'il faudrait garder des Jeux? Bah oui, parce que Paris était un peu... c'était un peu un Paris parfait, une capitale parfaite pendant 15 jours, au niveau de la propreté. Bah, Paris n'a jamais été aussi propre, disaient certains. La sécurité... Ça s'est très très bien passé. Des transports. Certains se disent, attendez, si pendant 15 jours Paris a été propre, les transports fonctionnaient et qu'en termes de sécurité c'était génial, peut-être qu'il faudrait garder ça. Alors l'opinion se penche là-dessus, c'est hyper intéressant, et dit, oui, ce serait formidable. Mais c'est peut-être plus compliqué de le faire que de le dire, puisque les moyens qui ont été mis en place, par exemple en termes de sécurité, étaient gigantesques. Hein. Et c'est compliqué de les maintenir évidemment au quotidien. Donc on va se pencher là-dessus, c'est un aspect que je trouve plutôt intéressant. Les Échos parlent aussi de la leçon olympique, ce qu'il faut retenir de ces Jeux, qui ont redonné le sourire à la France, c'est un joli titre, voilà, et qui espère que l'euphorie soulevée par les Jeux, on va la retrouver aussi pour les Jeux paralympiques. Il y a Dada qui trouve que les résultats de l'équipe de France sont moyens. Il y a Dada dans le chat, Dada140, c'est son premier message sur cette chaîne, et il dit « Je trouve que les résultats de l'équipe de France sont moyens ». Alors ici, tous les avis sont exprimables et on peut tous avoir une opinion. Après, il faut qu'elle soit documentée, il faut qu'elle soit fondée, et il faut partir d'une information. Alors l'information, c'est que dans l'intégralité de l'histoire des Jeux Olympiques, hein, de l'ère moderne, post-Seconde Guerre mondiale, quoi, jamais la France n'avait eu autant de médailles. Jamais. C'est un record. Donc tu ne peux pas trouver les résultats de la France moyens, puisque c'est son meilleur résultat. Hein, pour pouvoir le dire, il aurait fallu prendre la moyenne des médailles françaises sur toutes les Olympiades, voilà, et puis tu serais arrivé à un chiffre, la France aurait fait ça, tu aurais dit c'est moyen. Non, en fait, c'est pas moyen, c'est juste son record. Donc en fait, là, c'est pas un avis. Pour le coup, c'est juste une erreur, parce que ton avis sur l'actu, du coup, il est pas fondé sur des faits. Voilà. Donc le score de la France, vu les moyens investis dans le sport pour notre pays, sont gigantesques. Voilà, et ce résultat est juste incroyable. Hop, on lira les Échos. Et puis, comment ne pas lire l'Équipe, bien sûr, aussi. Moi, je me suis réabonné à l'Équipe exprès pour les Jeux. Voilà. Garder la flamme, ouais, c'est qu'est-ce qu'on va garder de positif de ces Jeux, voilà. Lionel Dangoumo, directeur de la rédaction de l'Équipe, qu'on a reçu ici aussi cette année, pour parler de l'Équipe et pour parler des Jeux, parle du jour d'après, voilà. Espérer que cette quinzaine, cette parenthèse enchantée, on dit certains, on ne va pas fermer la parenthèse et qu'on va en garder quelque chose de positif. Voilà pour cette grosse page JO. Je ne lis pas tous vos commentaires, là je suis dans le sommaire, donc je vais à l'essentiel de l'actualité, je pense à ceux qui ne peuvent pas rester 3 heures avec nous, après on va prendre le temps d'échanger, et puis évidemment on parlera du reste de l'actualité, parce que l'actualité sportive, l'actualité olympique ne doit pas faire oublier le reste. Donc moi, j'ai continué pendant cette séquence olympique de vous parler du reste de l'actualité, notamment de la guerre en Ukraine, et depuis quelques jours on suit avec beaucoup d'intérêt cette incursion de l'armée ukrainienne, c'est le Parisien qui nous en parle, en Russie, dans la région de Koursk, qui est une énorme surprise. Les Russes n'y attendaient pas du tout. Voilà. Avec Kiev, qui a reconnu mener une opération militaire dans le territoire russe, voilà, dans le but de déplacer la guerre en Russie. Objectif, déstabiliser les troupes de Poutine. La surprise, c'est cette opération. La surprise, c'est qu'elle dure depuis plusieurs jours. Quel est l'objectif de l'Ukraine avec cette opération, là, avec les militaires ukrainiens qui se sont introduits sur le sol russe. Là, l'article du Parisien est assez complet sur là où on en est aujourd'hui. Le Monde, dans sa dernière édition, parle même, c'était son principal titre de une, d'un revers symbolique majeur pour Poutine. Cette incursion de l'armée ukrainienne sur le sol russe, qui est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Une armée étrangère sur le sol russe, ça n'est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ici, on n'oublie pas le Proche-Orient. Ici, on n'oublie pas Gaza. La guerre, le génocide, disent certains, je fais exprès d'utiliser ce mot parce que on a du côté de l'ONU, du côté de, précisément, ça c'est assez intéressant, de la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, ce mot de génocide qui est utilisé. Voilà. Donc on fera un point sur Gaza et notamment sur ces frappes contre des écoles qui sont devenues des lieux de refuge pour les Palestiniens, pensant que dans les écoles, eh bien, ils seront en sécurité. On a là une école qui a été bombardée, et ce n'est pas la première. Donc la presse en parle, Libération en parle. Voilà. Dernier refuge des Gazaouis, des écoles, les écoles au pluriel, sous le feu des bombes. Voilà. On parle de 93 personnes qui auraient été tuées. On ira voir ce bilan parce qu'il a peut-être été révisé à la baisse par les autorités palestiniennes. Donc on ira vérifier ce bilan, mais au-delà du bilan, évidemment... C'est la gravité des faits qu'on interrogera ici avec ces écoles qui sont frappées, avec ce sentiment qui n'est pas un sentiment, qui est un fait, que les Palestiniens ne sont plus en sécurité. Là, je parle des civils, dans aucun endroit, de la bande de Gaza. Alors après, Israël, certains l'évoquent dans le chat, se défend en disant que les membres du Hamas, les combattants du Hamas, se cachent parmi la population civile, notamment dans ces écoles, pour légitimer ces frappes qui font énormément de morts civiles. Voilà, on prendra le temps de se pencher sur cette actualité dramatique. Et puis, on finira avec la politique, puisque le président Macron lui-même avait décrété une forme de trêve en disant que il ne nommerait pas de gouvernement, de premier ministre pendant les Jeux Olympiques. Voilà. On s'attend à ce que vers la mi-août, après le 15 août, le président Macron nomme un premier ministre qui ensuite formera gouvernement. Voilà. Donc, où on en est, on a un petit point dans les échos, page 4, après la trêve olympique, Macron de nouveau face au casse-tête gouvernemental, parce qu'il y a eu trêve, ouais. Il y a eu trêve, mais le casse-tête, lui, il est toujours là. J'aimerais bien pouvoir me projeter dans quelques jours pour voir un petit peu la nouvelle donne politique et quelle équation va pouvoir tenter de mettre en place le président Macron, parce que, comme le rappellent les échos, c'est un véritable casse-tête. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Bon, les amis, pour le sommaire de ce lundi 12 août, avec une grosse page JO, mais aussi une grosse page internationale, Ukraine, Proche-Orient, et une petite page politique. Allez, je lis un petit peu vos commentaires sur tout ça, et après, on prend le temps de lire tout ça, puisque l'intérêt de Twitch, c'est justement d'avoir le temps de détailler les informations, de vérifier les informations, d'échanger sur des informations, de débattre ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Martin, meilleur DJ de la scène Twitch, qui vient de raid notre chaîne. Merci Martin, je sais que ta commu arrive de bonne humeur puisque c'est une chaîne hyper joyeuse, hyper lumineuse. Merci à toi. Et les motos vont épingler la chaîne de Martin. Martin, pour que vous puissiez lui rendre visite si vous ne la connaissez pas. Salut Martin, tu vas bien? On boit du café ici. Ça y est, oui, elle est épinglée. Alors ceux qui connaissent pas la chaîne de Martin, il est plein de choses, mais c'est un DJ, voilà. Notamment voilà, qui mixe sur Twitch, qui met une ambiance de fou, notamment le matin, mais voilà, mais pas seulement. Et c'est une chaîne qui mérite d'être découverte, n'hésitez pas. Un peu ému avec la fin des jeux, pour être honnête et transparent, dit Martin, on va en parler justement. Grosse page JO ce matin. Merci, Sir Squirtle. T'as suivi les jeux, Samuel Etienne? Ouais, à peu près tous les jours avec vous dans la revue de presse. Ouais. Captain Lotan qui n'a pas dû venir souvent. Ça va, Captain? Attention à ne pas ramasser cette tasse again. Je sais, la semaine dernière, j'ai renversé énormément de café sur mon clavier. Écriture de mon mémoire devant le stream, ça donne de la motivation. Je ne sais pas comment vous faites pour écrire des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais eu. Dans le cadre de mes études, j'ai jamais fait de mémoire ou de thèse. Je suis très impressionné par les gens qui se lancent dans des aventures comme ça. Bravo, Edrad. Force à toi. Je n'ai pas acheté un nouveau clavier. Écoute, il a séché le café à clavier. Il fonctionne. Ouais, comme moi, je suis pas un consommateur à outrance et je pense qu'on consomme trop et qu'on achète trop de trucs dont on n'a pas besoin. Ouais. Donc, j'aime bien user les choses jusqu'au bout. Ouais. J'attends que mes t-shirts aient des trous, que mes chaussettes aient des trous, que mes jeans aient des trous. Et là, je les jette, ou mon épouse les jette d'ailleurs plutôt. Et là, je rachète des trucs. Et pareil pour mon matos, en fait. Je ne supporte pas de ne pas aller au bout d'un matériel. Voilà, tant qu'il n'a pas vécu de sa belle vie, quoi. Ouais, sauf pour les skins de Valo, où là, Kipi, t'as raison. Ouais. MDR, dit-il, alors qu'il achète des skins sur Valo, là, Kipi, là, j'ai aucun élément de défense, là. Enfin bon, on est d'accord qu'un bon skin sur Valo, ça améliore l'aim. Ça améliore la qualité de tir. Hein? On est d'accord. Donc c'est pour le gaming. C'est pour le gaming. On est d'accord. Oui, ça améliore. Ah oui, c'est évident. Bah oui. Et le rank aussi. Ouais. J'en suis à la démonstration d'ailleurs, hein, parce que j'ai quand même acheté pas mal de skins ces derniers mois et on voit bien que ça paye. Hein. On voit bien que ça paye. Mm. ça améliore le mental, donc le shoot. Ouais, chez certains, ouais. Ouais. Et Pierrot Elfoco qui dit je crois même que ça fait pousser les cheveux, les skins. Ouais. Bon, ben là, on va aller vérifier ces infos alors. Ouais, j'ai pas dû trouver le bon skin, comme dit Objectif Trap. Merci de cette bonne humeur, vous régalez. Comment ça se fait que vous soyez 4000 ? Attendez. Au début, quand j'ai lancé le stream, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu, j'étais un peu plus de 1000. Et là, vous êtes. Hop, c'est le raid de Martin, ça ou quoi ? Et on est 4000 là, c'est incroyable. Pour une revue de presse le matin. Vous êtes fous ou quoi ? Merci Damos. 007 pour le 20e mois. C'est incroyable. Vous êtes assez parce qu'il n'y a plus les JO. Bon, on va essayer de se consoler alors. Ok, on va se consoler sur les jeux. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ?
Yes.
Est-ce que vous êtes vraiment prêts ?
Yes.
Merci Nicoloco pour le 13e mois. Est-ce que vous êtes vraiment prêts ?
Yes.
Ok, c'est un vrai yes. Ok, c'est parti. J'ai découvert qu'il ne bloquait pas le stream dans ma boîte. il y a micro-pression qui est en train de regarder le stream depuis son travail. Et on a reçu un beau raid avec Martin et voici un deuxième beau raid avec Nerd Factory, encore une belle chaîne d'ailleurs, qui nous raid à l'instant. Voilà, les modos, n'hésitez pas à épingler. Mais je n'ai même pas eu le temps de le dire qu'ils l'ont déjà fait. La chaîne de Nerd Factory qui est une belle chaîne à découvrir. Merci Nerd pour ce raid du matin. Tu tombes pile poil au bon moment puisqu'on a fait une petite intro. On a dit bonjour, on a fait un petit sommaire et on n'a pas commencé la revue de presse. On s'apprête à la commencer là maintenant tout de suite. Il y a Le Barnet, dont c'est le premier message qui arrive dans le chat, qui dit qu'il trouve que les jeux étaient une chose formidable. C'est vraiment étonnant comment le pays passe de la crise politique à cette euphorie qui a franchement fait du bien. Tu as raison, c'est un phénomène très intéressant. Salut Soup, W Soup. Merci pour le message. Allez, c'est parti. Alors, essayons de nous consoler un petit peu des jeux. Essayons surtout, c'est le but de ces streams d'actualité, de nous dire ensemble ce matin qu'est-ce qu'on doit retenir de ces jeux. Est-ce que c'est une réussite, pas une réussite ? Camélie Dundin, bonjour Samuel, bonjour le chat. J'étais dans la dimension JO pendant 15 jours. Il s'est passé quoi dans le vrai monde ? Bah, Camélie, nous, on a continué à parler du reste de l'actualité, tu as tout en replay. Mais justement, on va parler de la politique aussi ce matin et de l'Ukraine aussi et de Gaza. Merci. En tout cas, Camélie, pour ton sub. C'est parti pour la revue de presse. D'abord, grosse page JO, post-JO et pré-Jeux paralympiques parce que ici, on trouve que les Jeux paralympiques, c'est très important et on trouve que les médias n'en parlent pas assez. Donc moi, j'essaie de vous trouver un max d'infos sur les Jeux paralympiques. Je n'ai pas pris de billets pour les Jeux olympiques, voilà, parce que on a regardé avec mon épouse, mais je crois qu'on a dû s'y prendre trop tard et puis c'était très cher. Par contre, on a pris des billets pour les Jeux paralympiques. C'est une façon de soutenir ces Jeux, parce que pour moi, c'est vraiment très important. Merci, Micropression. Merci, dit le Parisien ce matin, à cette incroyable quinzaine qui doit sa réussite au travail acharné des organisateurs. C'est une vraie réussite, hein, il faut le saluer. À leur folle vision et à la mobilisation de milliers d'anonymes. Impossible, pas français, se félicite Pierre Chausse. Alors, Pierre Chausse, on a reçu cette année plein de journalistes français le vendredi dans le cadre de la revue de presse pour parler de leurs journaux. Donc on a reçu des journalistes du Parisien, de Libération, de l'Équipe, de la Provence, de Ouest-France notamment. Et Pierre Chausse qui est venu nous voir, mais il dit ce matin, impossible n'est pas français, il se félicite de cette réussite. Difficile de dire au revoir, certains parlent presque de nostalgie ce matin dans le chat. C'est un jeu inoubliable. Ça je pense que c'est pas exagéré, je pense qu'effectivement c'est... Comme le disent certains journaux ce matin, ces Jeux Olympiques de Paris 2024 vont rentrer dans le livre d'or des Jeux Olympiques. C'est une édition qui est vraiment réussie. Ces Jeux inoubliables se sont achevés ce dimanche soir avec une cérémonie de clôture moins spectaculaire que l'ouverture. Mais les Jeux Paralympiques dès le 28 août sont la promesse d'un retour de flamme. Cérémonie de clôture qui n'a pas eu l'effet de signature et la cohérence de celle d'ouverture. Bon, je suis content de ne pas être tout seul à le penser. Voilà. Une soirée hier soir, certes chic, mais pas choc. Dit Yves Jéglé dans Le Parisien. Je m'arrête dessus un instant, moi, sur Twitter. Moi, j'étais hier soir devant la cérémonie de clôture, m'attendant à être totalement hypé comme la cérémonie d'ouverture. Quoi. Puis, j'ai été déçu. Voilà. C'est rien, c'est mes effets spéciaux qui font du bruit. J'ai des amis au Japon, ils m'ont écrit pour nous féliciter pour ces jeux. J'avoue que c'était quand même pas mal du tout, dit Corvax. J'étais déçu, voilà. Donc ça a donné une litanie de tweets un peu débiles de ma part. Voilà, par exemple, ça a commencé par ce tweet à 21h43, 43 minutes après le début de la cérémonie, où j'ai tweeté « bon ». Voilà. Bon, en mode « bon, bon ». Pas, tu vois, pas en mode « mais pas hypé, quoi ». Bon, voilà. Un peu plus tard, à 22h36, j'ai tweeté « bon, bon, bon ». Bon, bon, bon. Voilà. Ouais, on est vraiment sur une analyse assez fine hein, de l'événement, hein, comme vous le voyez. Voilà. Et c'était mignon parce que du coup, il y a pas mal de viewers qui disaient « ouais, effectivement, genre, c'est pas foufou, quoi ». Et deux ou trois qui me disaient « ah, ça y est, les mauvais esprits sont de retour voilà. ». Non, c'est juste que moi, j'ai aimé les jeux, mais j'ai trouvé que la cérémonie de clôture, elle était pas folle, quoi. Voilà. Après, il y a eu quand même à un moment l'arrivée de Tom Cruise. Alors là, moi, je suis pas un américanophile invétéré, mais j'avoue que Tom Cruise sur le toit du Stade de France qui saute là pour atterrir au milieu des athlètes, bon, j'ai trouvé que ça envoyait un petit peu quoi. Donc j'ai fait ah 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 voilà. Et puis après, il y a eu un de mes groupes favoris, les Red Hot, pour deux titres, si je dis pas de bêtises. C'est moi, j'attendais surtout ça. Voilà. Et ça a donné à 11h54. C'était long quand même. Un AA. Voilà, donc grosse analyse, hein, grande finesse dans l'analyse de ma part hier soir sur ces jeux. Voilà, c'était ma façon de... C'était une façon aussi de ne pas m'endormir hier soir. En vrai, parce que je me suis quand même vachement ennuyé. Donc je me disais, qu'est-ce que je peux dire comme truc pertinent. Et donc j'ai fait des bons et des AA. Ah, c'était pas terrible, mais c'était une façon aussi de ne pas m'endormir. Voilà. Mais et puis... J'étais en mode, je râlais un petit peu, j'étais avec mon épouse à côté, on regardait tous les deux, et je lui disais, mais putain, c'est quand est-ce que ça commence? C'est un peu chiant, non, tu vois? Et donc, voilà, on s'est un peu ennuyé. C'était pas nul, mais surtout, on avait tellement été hypé, je pense que j'étais pas tout seul, par la cérémonie d'ouverture, qu'on attendait, et je pense que c'était une erreur, aussi bien pour la cérémonie de clôture, et on voit, c'était pas top, quoi. Mais, écrit le Parisien ce matin, il faut bien un jour revenir sur Terre. Le vague à l'âme de ce dimanche soir était finalement inévitable. Voilà. Donc ça m'a fait rire parce que je me suis dit, finalement, une cérémonie une cérémonie de clôture pas trop top, bah c'est bien aussi pour marquer que c'est terminé, quoi. Hein. Je rigole parce qu'il y a Oman qui dit, t'as vu qu'un musicien mangeait des pâtes pendant que l'orchestre jouait de la musique? Ça, j'ai pas vu ça, non. Il y a Wedorge qui a écrit sûrement un contrebassiste comme d'habitude. Ah, j'adore! Ah, il y a une vidéo qui tourne? Ok. Ouais, mais c'est ça le problème. En fait, je pense que le problème n'était pas la cérémonie de clôture, quand on voit qu'elle était jolie. C'était que le niveau de la cérémonie d'ouverture, comme le dit Evo, était tellement incroyable qu'on attendait trop, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça. Donc c'était pas naze en fait. C'est juste que je pense qu'on attendait beaucoup plus. De rien, Hexogone. En tout cas, bon, le Parisien est assez d'accord avec ça. Ben, c'est pas si grave. Hein. L'important, c'est ce qui s'est passé pendant 15 jours, bien sûr. Comme le rappelle Art Alex, les cérémonies de clôture n'ont jamais été folles, donc rien d'étonnant. Ouais, on est bien d'accord. Ça sonne chez toi, non? Me dit... non, c'est chez toi. Donc, si t'attends un paquet, c'est chez toi. Je dis ça parce qu'après, il y a des gens qui ratent des paquets. On dit, ah là là, j'attendais mon paquet, puis à un moment, ça a sonné, mais je pensais que c'était chez Samuel que ça sonnait, du coup, je suis pas allé, j'ai raté mon paquet. Bah ouais. Donc, c'est chez toi, dépêche-toi, par contre. Parce qu'après, ça sonne, puis ça s'en va très très vite. Hein. Parfois, ça sonne pas même. Hein, parfois, ça va en bas de chez toi, ça sonne pas, ça dit que c'est passé, et puis après, c'est très dur de récupérer ton paquet. Ou alors, ça vient même pas devant chez toi, ça sonne pas du tout non plus, ça dit que c'est passé. Enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Voilà. Donc quand les rares fois où ça sonne, allez-y quoi les gars, allez-y. Ne pensez pas que c'est chez moi. Là, je reçois pas de paquet ici. Personne n'a cette adresse, c'est une adresse secrète. Donc, si ça sonne, allez-y, parce que c'est quand même assez rare que ça sonne. C'est, hein, comme le dit Claire Adodi, c'est déjà un privilège que ça sonne. Donc, si ça sonne, déjà remercier le gars qui a sonné. Hein. Paris gagné, donc, pour ces Jeux de Paris 2024, ce sont plusieurs paris qui ont été gagnés, nous dit le Parisien. Énorme succès populaire, c'est vrai. Des épreuves intégrées à des sites historiques, c'est vrai que c'était magnifique. Voilà. Bon, mon épouse, par exemple, qui est comme moi, qui ne regarde pas trop le sport, elle a tellement été hypée qu'à un moment, elle a réussi à se débrouiller pour aller voir, grâce à son entreprise, le beach volley au pied de la Tour Eiffel. Et ce qui l'intéressait, ce n'était pas de voir le beach volley, c'était le beach volley au pied de la Tour Eiffel. Voilà, elle a vraiment trouvé ça super, quoi. Elle a passé un bon moment. Aucun couac notable, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros couac. Des images iconiques, nous rappelle le Parisien, hein, avec ces images de... J'en parlais un instant, de beach volley au pied de la Tour Eiffel, d'escrimeurs descendant le magnifique escalier du Grand Palais, c'était juste superbe. D'épreuves d'équitation dans le parc du Château de Versailles, etc. etc. Une ferveur populaire inédite. Hein, s'il y a 2-3 mois, je vous avais dit, imaginez, il y a 2-3 mois, dans cette revue presse, je vous aurais dit « Oh là là !» Ce truc va hyper la France, les gens vont adorer, il va y avoir des millions de téléspectateurs, il va y avoir les places vont être prises d'assaut. Vous m'auriez dit, Samuel, t'es gentil, mais arrête la fumette. Voilà. Hein. À une époque où, il y a quelques mois, il était de bon ton de dire, ah là là, ça va être naze, ça va être une catastrophe au niveau sécuritaire. Certains médias disaient ça, certains internautes, certains politiques même. On sait qui d'ailleurs, c'est assez facile à retrouver. Donc ça va être une catastrophe au niveau de la sécurité, ça va être très mal organisé. Ici même, quand on faisait des projections sur les médailles, hein, il y avait des projections sur les médailles, et quand il y avait des projections un petit peu optimistes, ici même, c'était en mode dans le chat, qu'est-ce que tu racontes Samuel, jamais on aura autant de médailles, etc. Bon. Et finalement, bah si, ça a été une réussite. Voilà. J'aurais la délicatesse de ne pas aller voir les streams qu'on faisait il y a 2-3 mois et les pseudos des gens qui disaient que ces JO seraient une catastrophe. Voilà. Moi, qu'est-ce que je disais à l'époque ? Ni que ce serait une catastrophe, ni que ce serait une réussite, mais tout simplement, ben, toujours ce qu'on essaie de faire ici, à savoir, les gars, comment pouvez-vous dire 3 mois avant un événement que ça va être un échec ? Comment pouvez-vous dire 3 mois avant un événement que ça va être une réussite ? Vous ne le savez pas. Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces jeux. Et on dira au moment de ces jeux si c'est une réussite ou si c'est un échec. C'est ça, en fait, la bonne posture. Bon, bah, on a regardé les jeux, bah, c'est une réussite. Point. Voilà. Avec des petites choses, des petits détails qui n'allaient pas et qu'il ne faut pas oublier. Mais globalement, c'est une énorme réussite. Voilà. Donc, les gens qui, 3 mois avant un événement, disent que ça va être formidable ou que ça va être un échec, bon, bah, ça n'a aucun intérêt. La fièvre s'est répandue non seulement dans toutes les tribunes, mais aussi dans l'ensemble des sites, comme dans les fan zones. Mais aussi dans les bars, dans les restaurants, transformant les jeux en événements réellement populaires. Bon, j'étais très surpris de me balader dans Paris et de voir effectivement toutes les terrasses de café, les restos avec les grands écrans sur les épreuves des jeux, comme on voit pendant la mondiale de football. Je ne m'attendais pas à ça, par exemple. C'était assez beau. 9,5 millions de billets vendus, c'est un record. Aucune édition des Jeux Olympiques n'a vendu autant de billets, alors qu'ils étaient très chers pourtant. Hein. Avant même la cérémonie d'ouverture, la plupart des sésames avaient trouvé preneur, alors que le prix des billets a longtemps fait polémique. Voilà. 9,5 millions de billets ont été achetés. Je vous lis un petit peu là-dessus, puis après on va voir comment aussi poursuivre cette belle séquence, comment entretenir le feu sacré avec le Parisien. Il y a des Parisiens qui sont allés voir la Vasque sur Paris. Ben moi, je voulais y aller, moi, Forcicus, mais c'était plein. Je sais pas, avec mon épouse, on n'a pas réussi, on s'y est pris trop tard. Pourtant, on s'y est pris tout de suite, mais trop tard. J'aurais bien aimé. Enfin, en tout cas, Hélène aurait bien aimé. Nono, moi, j'y croyais. J'ai acheté des places à l'avance. J'ai rêvé pendant 15 jours et j'ai vu des compétitions incroyables. GG à toi, en vrai. Bien vu. Bien vu. Record de médaille pour la France, donc réussite aussi sportive, bien sûr, et bien marrant. Et ça, on va en parler. Bien sûr. Merci, Moulbit. C'est drôle parce qu'on a un Moulbit ici, un habitué qui est aussi un modo. Moulbit, comme un Moulbit. Et il y a un nouveau pseudo qui vient de pop dans le chat, c'est Mowlbit, M-O-W-L-Bit, B-E-A-T, mais bit, boum, 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 Mowlbit, Oui, et il y a le vrai l'autre moule beat qui est là, qui a eu peur. Et il y a un mole beat. Incroyable, regarde le dernier sub. Ce n'est pas moule beat, c'est mole beat. C'est incroyable. Vous êtes cousins, vous connaissez ou pas? Vous êtes amis? Vous êtes proches? Couple? Qu'est-ce qui se passe? Merci Plisty TV pour le Prime. Incroyable. Cette communauté, on est envahi par les slips. Il y a Cyril qui dit on est envahi par les slips. C'est incroyable. Mais ces beats sont boum, boum, boum. Incroyable. Beau beat. N'importe quoi les pseudos d'Ironie Fleur de Paix. J'adore cette communauté, j'adore ces pseudos. Ok. Il fait trop chaud pour les slips, c'est-à-dire, Tenry, t'es habillé comment en regardant là si tu trouves qu'il fait trop chaud pour les slips? C'est-à-dire, comment ça se passe? Tu es nu? Pour info, tu peux voir extrêmement bien la vasque du côté du jardin, gratuitement aussi. Ah, les barrières sont pas loin? Ah bon, bah, je vais y aller avec Hélène alors. Ok. Ah ouais, attends, excuse-moi, je corrige, bien vu. Merci Vince. T'as vu? Action, réaction. Merci Henri, Tetman, pour ce troisième mois. Ok, bon, réussite au niveau notamment de la fréquentation des billets. Alors, bon, c'est des 15 jours formidables, on est assez d'accord là-dessus. Comment on peut entretenir ça? Qu'est-ce qu'on peut garder de positif là-dessus? Il y a Crasfar TV qui vient de prendre un deuxième mois d'abonnement et qui écrit « Je suis allé à Roland-Garros au Stade de France pour la finale du 100 mètres et la nouvelle épreuve de canoë-kayak cross. » J'aurais bien voulu voir ça, moi. Avec une médaille française, c'était juste magique. J'ai offert l'ambiance des places à ma maman qui a vaincu son cancer du sein et on continue avec les paras jusqu'à la cérémonie de clôture. Et je suis bien content pour ta maman, Craftstar TV. Ça, c'est beau. Merci pour ces belles nouvelles. Merci de partager ça avec nous. C'est gentil. Et force à ta maman. Comment on fait pour entretenir le feu sacré, se demande le Parisien ce matin. La France a donc terminé 5e. C'est beau, hein? Au tableau des médailles, en battant tous ces records, le résultat d'une politique volontariste et de moyens exceptionnels qui doivent continuer pour que les Bleus brillent maintenant à Los Angeles, hein, Jeux Olympiques de 2028. Est-ce qu'on peut espérer que la France fasse genre aussi bien que Los Angeles, alors qu'on ne sera pas à domicile? L'article est super intéressant. Article de Romain Baheu et Gaëtan Morin. Et voici la France à l'étage supérieur. Celui du quintet de tête des nations des Jeux. Les Bleus pèsent 16 titres olympiques pour 64 médailles en tout, ce qui est énorme. Hein. Meilleur pays européen, mesdames et messieurs. Hein. On s'est un peu tiré la bourre, notamment de la Grande-Bretagne à la fin, qui a fait aussi une très belle édition des Jeux. Et une question déjà dans un coin de la tête, est-ce une courte visite ou une présence durable dans ce top 5 des Jeux olympiques? Première analyse, les trois derniers pays organisateurs ont dans les éditions suivantes poursuivi sur leur lancée. Le Japon finit ses Jeux parisiens, par exemple, en troisième position, comme à domicile. C'est intéressant. Il y a un effet post-jeu. Le Brésil n'est plus sorti du top 20 olympique depuis les Jeux de Rio. Et la Grande-Bretagne, troisième à Londres en 2012, a enchaîné avec une deuxième place en 2016, une quatrième en 2021, et là, a fait également de bons Jeux olympiques. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une espèce de règle, comme quoi il y a un effet post-JO sur les pays qui accueillent, et que ça voudrait dire que la France, pour la prochaine Olympiade ou les deux ou trois prochaines Olympiades, pourraient avoir de bons résultats également. Bon, ça n'est pas fait, mais c'est un indice intéressant. L'un des points cruciaux pour expliquer cette réussite, c'est que jamais la France, jamais les Bleus n'avaient bénéficié d'autant de moyens, hein, de moyens matériels, financiers, pour préparer des Jeux. Voilà. Il y a eu un volontarisme ici qu'on peut qualifier de politique. Il y a eu une volonté de mettre des moyens en place. Budget précisément de 114 millions d'euros. Qu'en sera-t-il pour la prochaine Olympiade, hein, qui sépare les Jeux de Paris de ceux de Los Angeles en 2028? La question, c'est est-ce que ce budget va être maintenu en 2028? Le Parisien qui le souhaite, vous l'avez compris. Il y a plusieurs journaux qui disent ça ce matin, d'ailleurs. Hein, on n'avait jamais mis autant de moyens sur une Olympiade pour les Bleus, ben, il faudrait continuer cet effort. Alors que c'est vrai que quand on regarde les budgets mis en place, les budgets publics mis en place en France pour le sport, notamment le sport à l'école par exemple, ben on n'est pas un pays qui met l'accent sur le sport, quoi. Donc là, certains disent qu'il serait peut-être le temps de le faire. Voilà. Il faudrait dédier plus les structures dédiées au sport, dit Jugraf, et ça on va en parler tout à l'heure. Merci Eterlopop pour le 12e mois. Merci Rainbow86 pour le Prime. Et pour le message. Ah, Loloken ! Ah, tu es le frère de Loloken ? Merci pour ton message. Merci pour ces bonnes nouvelles. Ça fait plaisir. Vous êtes frères les deux ? Attends, il y a des frères dans le chat. C'est trop mignon. Oh, sa sœur, pardon. Ah oui, mon frère. Bah oui, pourquoi j'ai dit ? D'accord. Frère et sœur, ok. Trop chou. Merci Hugo Fayard pour le Prime. Merci Hugo. On a un problème avec le principe de compétition et d'excellence en France, me dit Nicolas Cage officiel. Nicolas Cage, un de mes acteurs favoris. Je suis assez d'accord avec Nicolas quand il dit qu'on a un problème avec le principe de compétition et d'excellence en France. Ouais, on n'est pas très à l'aise avec ce concept-là. Ouais. Merci. Alors, la une de Libération est magnifique, comme souvent. Paris 2024, tas de beaux jeux. Ferveur populaire, organisation sans faille, record de médailles tricolores. Pendant 15 jours, la France a savouré la réussite de ces Jeux qui se sont clos dimanche, place désormais aux Jeux paralympiques à partir du 28 août. Merci Libération de parler autant des Jeux paralympiques. De ce que je constate, moi, Libération est le quotidien qui parle le plus des Jeux olympiques. Sinon, de la question du handicap en France d'ailleurs. Et ça, je trouve ça très très bien. Ici, on va faire cet effort justement d'aller chercher toutes les infos possibles sur les Jeux paralympiques parce que j'aimerais vraiment que ces Jeux paralympiques soient réussis et permettent de sensibiliser le plus de Français et de Françaises possible à la question du handicap, sujet sur lequel on a beaucoup de progrès à faire dans notre pays. Merci à Lunir 33 pour le 3e mois d'abonnement. Un moment hors du temps, hors OR bien sûr, comme les médailles, contrairement au chaos annoncé, ils sont où les Cassandres? On ne les entend plus beaucoup, notamment chez les politiques. Hein. Il y avait quelques politiques qui avaient parié politiquement sur un échec de ces Jeux. On ne les entend plus beaucoup. Contrairement au chaos annoncé, la quinzaine olympique, t'as joué, t'as perdu. Bon. La quinzaine olympique réussie dans les stades comme en dehors nous a finalement offert une respiration, une parenthèse enchantée après une période difficile. Libé fait le bilan. Je suis d'accord avec Dim Bagou. Alors, je peux me tromper, mais Zimbabwe dit « Je milite pour que les Paralympiques et les Olympiques ne soient pas séparés, que les Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques soient en même temps. C'est honteux. Oui à l'inclusion totale, tout le monde en même temps. » Alors, je connais l'argument qui va m'être tout de suite opposé dans le chat et qui est l'argument, en fait, des organisateurs des Jeux Olympiques. Ils disent « Ah oui, mais en fait, on fait les Jeux Paralympiques après. Après, comme ça, ils sont plus exposés. Parce que si c'était en même temps, on les verrait moins. » Voilà. Ingérable logistique, disent d'autres. Moi, je crois pas. Moi, je crois que qui veut peut. Je crois que quand on est en capacité, comme on vient de le faire, d'organiser aussi bien des Jeux Olympiques, je ne crois pas qu'il soit impossible de faire les Jeux Paralympiques en même temps. Moi, je pense qu'effectivement, on devrait faire les Jeux Olympiques et Paralympiques en même temps. Je pense que ça profiterait à l'exposition des Jeux Paralympiques. Médiatiquement, je pense que ça créera plus d'attention. Après, je peux me tromper. Hein. Ouais. Comme le dit Dimagou, j'entends les arguments recevables qui sont contre, mais je maintiens. Ouais, après, c'est une question d'analyse. Hein. Me dit Défécateur officiel qui est habitué de cette chaîne. Oui, pour l'inclusion, le message serait quand même meilleur. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Ou au moins les enchaîner. Parce qu'on a 15 jours de pause. Alors certains posent la question du logement. Je pense qu'une ville comme Paris, un pays comme la France peut loger... Peut sans doute loger les athlètes olympiques et paralympiques. Quoi. Ou pas. Mais en tout cas, réduire cette période de 15 jours que je trouve gigantesque. Quoi. Mais je peux me tromper, hein. Mais c'est mon sentiment là-dessus. Aux Jeux paralympiques, que la fête continue, en tout cas, souhaite Libération. Le comité d'organisation est maintenant face à la nécessité de réussir l'événement paralympique. Enjeu majeur d'inclusivité. Parce que l'enjeu des Jeux paralympiques, c'est bien sûr c'est célébrer les performances des athlètes paralympiques, mais aussi d'œuvrer pour plus d'inclusivité dans notre société. Et encore une fois, on a des progrès à faire en la matière. Avec ces Jeux, la France peut se prévaloir du sentiment du devoir parfaitement accompli, les Jeux Olympiques. L'étape 2 du contrat maintenant, Tony Estanguet a une jolie formule d'ailleurs. Il parle du match retour. Il faut réussir le match retour. Réussir les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre, c'est dans un petit moment quand même, hein. 11 jours de compétition, 4400 athlètes en lice. Dans 549 épreuves, le programme est conséquent. La France aura-t-elle la tête à en être? Et a-t-on suffisamment conscience collectivement de l'importance de répondre aussi présent à ce deuxième rendez-vous? Je l'espère, mais je n'en suis pas sûr. Le timing paraît casse-gueule. Parce qu'il y a déjà le fait qu'il y a 15 jours de pause et que la hype peut un peu retomber. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est pile dans la rentrée. C'est-à-dire que les Jeux paralympiques vont débuter pile au moment de la rentrée, rentrée professionnelle, rentrée scolaire, rentrée politique. Ça veut dire que les Français vont avoir un peu la tête à autre chose. Voilà, on peut estimer que pendant les vacances, pendant l'été, ils sont plus peut-être disponibles pour d'autres choses. Les médias aussi vont être portés sur autre chose, parce qu'il va y avoir plus, notamment la rentrée politique, il va se passer plein de choses. Et puis alors, certains parlaient d'hébergement et puis de conditions matérielles. Faire les Jeux paralympiques alors que tous les Parisiens sont rentrés, notamment pour la rentrée scolaire, le timing me semble pas idéal, quoi. Donc voilà, Libération se pose la question aussi. Sachant aussi que l'appétit pour les Jeux paralympiques reste à vérifier, ça se voit au niveau des ventes de places, hein. Il y a un peu plus de 2,8 millions de billets en vente et pour l'instant on en a vendu 1,3. Voilà. Oui, certains me soulignent que le The Event se déroule au même moment que le début des Jeux paralympiques. Bon, bah moi je continuerai à vous faire des revues de presse pendant le The Event, bien sûr, et on se penchera sur les Jeux paralympiques pour ne pas passer à côté, quoi, ce qui serait quand même bien dommage. Voilà. Ayons ça en tête, en tout cas. Mais MXS a raison, c'est déjà pas mal, 1,3 million de places, et je suis vendu. Il y a de plus en plus de ventes, les ventes sont en train de s'accélérer. Voilà, effectivement. Donc, on va surveiller ça, mais c'est pas. Moi, je suis pas en train de dire que le truc est complètement raté. Hein. Je suis en train d'espérer très très fort que les Jeux paralympiques soient aussi réussis que les Jeux olympiques et que ça expose la question du handicap de façon très forte auprès des Français et des Françaises. Voilà. Et comme je vous le disais, moi, j'ai pas pris de billets pour les Jeux olympiques, mais j'ai pris des jeux pour les billets paralympiques. Je vais aller voir notamment le basket fauteuil. Je sais plus où c'est. Voilà. En famille, avec les enfants, ça va être sympa. Ça va être sympa. Le Figaro célèbre aussi ses Jeux Olympiques. On dit basket, on dit pas basket fauteuil. Merci beaucoup, merci Ilias Le Retour. On va en parler ADC, c'est très intéressant ce que tu dis. On va en parler tout à l'heure. Ah oui, c'est à Bercy, je crois. Rien de mec, c'était à Bercy ce matin. C'est très spectaculaire, me dit Mémaron, le basket fauteuil. C'est à Bercy, je crois. Merci Kodama pour le 14e mois. Ah bah Jean Moulin, je ne cesse d'en parler, moi. La question du handicap en France, on a 1 milliard d'efforts à faire. C'est pas la nouvelle arena Adidas, je crois que c'est à Bercy. Hélène m'a dit Bercy. En tout cas, on emmène les enfants. Qui contre qui? Bah je sais pas, c'est Hélène qui s'occupe de ça. Tu fais du basket fauteuil, Alexandra? Trop bien. Et bah Alexandra, qui est une habituée de cette chaîne, elle fait du basket fauteuil. Trop bien. Et bah tu pourras m'en parler. Donc, le Figaro se félicite également ce matin de ces Jeux de tous les records. Elle évoque cette cérémonie de clôture hier soir, joyeuse, mais plus protocolaire que la cérémonie d'ouverture. Bon, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Hein. Tout le monde rêvait d'effets waouh et de nouvelles surprises. On a été un peu déçus de cette cérémonie de clôture par opposition à la cérémonie d'ouverture qui était juste totalement insane. Voilà. Gros article sur ces Jeux inoubliables, estime le Figaro. Le rideau est tombé sur les Jeux. Après 2 semaines fabuleuses, il laisse un tourbillon de souvenirs, un torrent d'émotions et déjà un fort pincement au cœur. Chez certains, ce matin, je vois dans le chat un peu de géostalgie. Depuis la Coupe du Monde 98, écrit le Figaro, la France n'avait jamais été portée par un tel élan, ce qui est vrai. Paris 2024 a su quoi ? Se faire une petite place dans un environnement géopolitique angoissant. N'oublions pas qu'il y avait des craintes sur la sécurité, des craintes sur le terrorisme. Hein. avec des guerres sans fin et la menace terroriste pour livrer un projet novateur. Une parenthèse enchantée, dit le Figaro. Le tableau promis était infernal. C'est certains médias, certains politiques, certains sur les réseaux qui promettaient une catastrophe. Le résultat est éloquent, dit le Figaro. Il a mis en scène le savoir-faire, l'art de vivre, les capacités, la qualité de l'accueil, de la cérémonie d'ouverture audacieuse, provocante, écrit le Figaro, à la cinquième place d'un tableau des médailles. La réussite a été totale. La France avait attendu longtemps avant de revoir les Jeux. Paris 1924 pour l'été, Albertville 92 pour l'hiver. Elle en a largement profité. La France a crié, elle a dansé, elle a vibré, elle a pleuré, elle a marché, couru. Elle s'est sans réserve laissée emporter par cette valse à mille temps. C'est joli. Il fallait le voir pour le croire. Des stades en ébullition, des spectateurs en transe, des sportifs acclamés comme des rockstars. Paris 2024 se glisse dans le livre d'or des Jeux Olympiques. Je lis l'article et après je vous lis bien sûr. Mais pour accrocher les Jeux dans l'histoire, il faut des étoiles et des records. Et Paris 2024 a été éclairé par de nombreux athlètes. Alors, merci au Figaro parce que, bon, les médias français se sont surtout intéressés aux réussites françaises. Voilà. Et je suis content que le Figaro rappelle un petit peu toutes les stars de ces Jeux qui n'ont pas toutes été françaises. Je lis, Paris 2024 a été éclairé par le Suédois Mondo Duplantis au saut à la perche, l'Américaine Sydney Mike de Laughlin Levron majestueux sur 400 mètres haies, par la virtuosité des plongeurs chinois signant un inédit grand chelem, la vitesse infernale de Harry Levesen et des cyclistes néerlandais sur la piste, par le tour de force et la longévité du lutteur cubain Mireille Lopez, 5 médailles d'or consécutives. Les Jeux ont également été bouleversés par l'émotion du Serbe Djokovic, hein, médaille d'or olympique, le seul qui manquait à son palmarès, qui a laissé l'or qui manquait à son incarable collection, par la magie de la star américaine Simone Biles, l'immense Simone Biles qui nous a régalé, qui a donné le tournis aux épreuves de gymnastique avec 3 médailles d'or et 1 en argent 3 ans après son cauchemar des Jeux de Tokyo, par les rafraîchissantes espagnoles victorieuses. Pour la première fois en waterpolo, par le javelot d'or du Pakistanais Arshad Nadim, offrant une historique première médaille d'or dans l'athlétisme à son pays. Hein, ou encore la régularité de la légendaire nageuse américaine Cathy Ledecky, qui titrait sur 800 et 1500 mètres, a décroché sa 9e médaille d'or olympique. Dans un bassin où Léon Marchand, du côté des Français, 5 médailles dont 4 d'or, s'est essayé comme un irrésistible collectionneur. Teddy Riner, rejoignant lui le judoka japonais Nomura Tadahiro dans la légende olympique. Donc, le Figaro qui n'oublie pas les Français, mais qui rappelle que les athlètes étrangers nous ont procuré un max d'émotions aussi. Qu'est-ce qu'on peut garder de cet héritage des Jeux? On se pose la question dans les pages de la Croix dans un instant, mais d'abord je vous lis. Merci Kodama. Non, Erendi, je n'ai pas fait le marathon pour tous. J'avais un dossard, mais au dernier moment, j'ai appris que je n'avais pas les droits de diffusion. Parce que j'avais prévu de faire un stream, hein, de vous faire vivre ce marathon pour tous de l'intérieur, comme je vous avais déjà fait découvrir des courses à pied de l'intérieur. Et au dernier moment, j'ai appris que je n'avais pas les droits. Voilà, sans droit, tu ne peux pas diffuser un contenu. Voilà, donc j'ai dit aux organisateurs, bon, bah tant pis. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, faites profiter mon dossard à quelqu'un qui... Il y avait beaucoup de gens qui voulaient courir ce marathon. Moi, ça aurait été mon 24e marathon. Le marathon, je connais la distance. Donc, je ne le faisais pas pour moi. Je le faisais plutôt pour partager ça avec vous dans le cadre d'un stream. À partir du moment où je ne pouvais pas faire ce stream, alors qu'on m'avait dit que je pourrais le faire. Hein, parce que je ne me suis pas posé la question au dernier moment de la question des droits. On m'avait dit que je pourrais streamer ce marathon. Et puis finalement... On m'a dit quelques jours avant que je ne pourrais pas, donc j'ai dit bon, bah, on va pas se fâcher. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas couru. Voilà, c'est pas très grave. C'est dommage, l'ambiance est incroyable, il n'y a aucune captation. Bah, je sais, Vince, ouais, je sais, ouais. Ouais, c'est dommage. Je crois que ouais. Même, je pense que ça aurait été une vraie valeur ajoutée que les gens puissent suivre ça en direct. Mais c'est pas grave. Pas de regret personnellement outre le stream, non, Colomban, non. Parce que la course à pied, c'est un peu derrière moi. Moi, j'ai beaucoup couru pendant très longtemps, beaucoup de courses à pied, beaucoup de triathlon. Bon, moi, je manque de temps aujourd'hui pour m'entraîner correctement. Puis le corps commence un peu à fatiguer. J'ai un peu trop couru à une époque, un peu trop fait de sport. Et donc, bon, ça pique un peu le dos, ça pique un petit peu les cervicales, ça pique un petit peu les genoux. Voilà, donc, du coup, voilà, mes performances sont derrière moi. Donc, là, je le faisais pour le stream, pour le partage, mais je ne le faisais pas pour. Je cours plus pour courir, quoi. Donc, il n'y a aucune déception. Hein. Merci, Chamgrat, pour le 12e mois. Voilà. Bon, en gros, aujourd'hui, je préfère streamer que faire du sport, quoi. En termes d'hygiène de vie, je ne sais pas si c'est top, mais. Tu as donné ton dossard à un autre coureur pour qu'il en profite? Alors, pas un autre coureur, ça, c'est interdit, hein. Tu ne peux pas donner ton dossard à un autre coureur pour qu'il en profite pour des raisons de sécurité. En fait, ton dossard est lié à un certificat médical qui est validé par les organisateurs. Évidemment, tu ne peux pas donner ton dossard à un autre coureur s'il n'est pas passé par le règlement, et notamment en fournissant un certificat médical, etc. Donc, tu ne fais pas ça, c'est interdit, c'est même très dangereux. Imagine, le gars a un accident, ce n'est pas la bonne identité, c'est un enfer, quoi. Donc ça c'est interdit, ne serait-ce que pour la sécurité du coureur. En revanche, j'ai dit aux organisateurs que je rendais mon dossard et qu'ils pouvaient le redonner eux. Voilà. Ça je l'ai fait évidemment pour que ce dossard ne soit pas perdu. Mais tu ne donnes pas directement ton dossard à un coureur. Ça c'est un, c'est interdit. Deux, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc par contre, je l'ai rendu aux organisateurs. Ouais. Bien sûr, pour quelqu'un en puisse en profiter. J'espère qu'ils l'ont filé à quelqu'un d'autre. J'espère aussi que tu as arrêté de prendre des douches. Oui, je confirme. Beauchoc Max, je me suis assez. Je me suis rarement aussi peu douché que depuis que je stream. Merci FreddyPad72 pour le cinquième mois. Merci Kruger71 pour le deuxième mois. Oui, en cas d'accident, ils ont rappelé Hélène, ouais, effectivement. Ouais. Oui, imaginons, je file mon dossard à quelqu'un comme ça. C'est ce qui est super dangereux. Voilà. En gros, le mec a un accident cardiaque ou autre, il y a eu des malaises, hein, comme souvent, sur ce genre de course, bah, ils appellent Hélène, quoi. Oui, votre mari vient d'avoir un malaise? Bah non, il est avec moi. Ah. Oui, c'est un peu embêtant, quoi. Mon record personnel d'Amso sur il y a très longtemps, à Berlin. Sur le tracking officiel, ton dossard est en not started. Ah, ok, ils m'ont mis en pas partant. Bah ouais, bah, je suis pas parti. Bah oui, mais ils voulaient pas que je streamais. Donc. Ils voulaient pas que je stream. Donc, écoute. Moi, de toute façon, j'avais été très clair hein, depuis le début avec les organisateurs. Moi, je voulais bien courir le marathon, mais pour le streamer. C'était le projet. Donc, j'avais fait aucun mystère de ça. Je leur avais envoyé. Ils m'ont demandé un dossier technique avec les dimensions de la poussette de stream, longueur, largeur, le matériel embarqué. Enfin. Ce que je fais pour toutes les courses que je stream. Donc, voilà, on avait fait les choses sérieusement. Ils savaient très bien pourquoi c'était, quoi. Et j'avais l'autorisation. Puis finalement, ouais, ils sont revenus. Enfin, c'est pas la faute des organisateurs d'ailleurs, mais bon, au niveau des droits audiovisuels, il y a eu un souci, quoi. Du coup, c'est le fait de streamer ou le fait d'avoir une poussette qui génère. Ah non, mais rien de tout ça. C'est la question des droits audiovisuels. C'est pas une question de poussette ou de streamer. C'est juste les droits audiovisuels, ils appartiennent à des gens et ça coûte de l'argent. Donc, à un moment, les gens, ils décident de voilà, ils ont décidé qu'ils voulaient pas que d'autres diffusent ça, quoi. Voilà. C'est même pas le CIO, quoi. C'est même pas le CIO. C'est même pas Paris 2024, quoi. Merci, t'étais le BZH, comment vas-tu? Merci pour le 28e mois. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, personne ne diffusait. C'est ça qui est formidable. Parce que Louis Baudin dit, est-ce que le marathon était diffusé quelque part? Et Stitax dit d'autres, alors que personne ne diffusait. C'est ça qui est drôle, c'est que par ailleurs, ça a été diffusé nulle part. le voilà. Enfin, le marathon n'a pas été diffusé dans son intégralité, ce que moi je proposais, quoi. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors Le Figaro se félicite, voilà, et la Croix se pose. Ah, c'est même pas une question d'argent, une fleur de paix. C'est même pas une question d'argent. Moi, j'étais prêt à payer ce qu'il fallait. Non, c'est même pas une question d'argent. C'était juste une volonté de ne pas partager ses droits de diffusion. Voilà. Point. Mais bon, j'en ai pas parlé, notamment pas sur Twitter. J'ai pas fait un tweet là-dessus parce que j'estimais que on s'en foutait un peu de cette polémique en vrai. Voilà. La Croix se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir garder en héritage de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, et ça me semble très important. Le sport en héritage, l'intensité, la beauté des Jeux Olympiques qui se sont achevés dimanche devraient avoir un effet stimulant sur la pratique sportive en France, on l'espère. Un rebond de la pratique sportive, ça, est-ce que ça va être le cas, c'est extrêmement intéressant, est espéré en France après la ferveur populaire qu'ont suscité les Jeux Olympiques de Paris. La Fédération Française de Tennis de Table, par exemple, s'attend à un boom des inscriptions après les performances des frères Lebrun. Après les Jeux, il va y avoir du sport, et moi je reste tranquille. Consacrée grande cause nationale pour 2024, l'activité physique et sportive va inévitablement être propulsée par les performances. Vous avez la ref ? Vous avez la ref. Vous avez la ref, vous êtes des champions. Vous êtes les meilleurs, je le savais déjà. Vous avez la ref. Merci Hugo, je t'aime aussi. Consacrée grande cause nationale pour 2024, l'activité physique et sportive va inévitablement être propulsée par les performances récentes des athlètes français. Encore faut-il que les infrastructures suivent. C'est ce qui était intéressant dans cet article, et que l'encadrement nécessaire soit mis en place. Parce que s'il y a plein de jeunes, parce que c'est ça dont on parle, hein, les enfants qui veulent s'inscrire dans des clubs pour pratiquer un sport, s'il n'y a pas les structures, s'il n'y a pas les entraîneurs, ça va être compliqué. C'est ce que dit la Croix dans ce dossier. La question est sur toutes les lèvres. La France va-t-elle connaître un boom de la pratique sportive à la rentrée ? Jusqu'à présent, la tenue d'un tel événement a contribué à promouvoir le sport, mais ne garantit pas le prolongement de l'engouement. Tempère d'emblée Guillaume Dietsch, qui est à la fois un enseignant en sport et un écrivain, quelqu'un qui travaille sur ces thématiques-là. Le gouvernement français a l'occasion de transformer l'essai en faisant de la France un pays où le sport est roi, voilà, avec plus de présence notamment du sport à l'école. C'est que le sport n'est pas très présent à l'école française, moi je le regrette, je pense qu'il faudrait y avoir plus de sport à l'école. Pour cela, il faudra convertir les millions de jeunes français à un défi de taille. Pour qu'il y ait un prolongement de cet engouement, il faudra d'abord être capable d'accueillir tous ces nouveaux licenciés. Note Guillaume Dietsch, qui est à la fois enseignant en sport et sociologue, auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les jeunes et le sport », donc il a un peu bossé sur le sujet. Si on regarde, c'est intéressant. Il y a Mick Izzo qui dit dans mon club de badminton, pour la première fois, on est complet en septembre. L'enseignant sociologue du sport rappelle par exemple qu'en 2023, la Fédération française de basketball, c'est hyper intéressant, en 2023, la Fédé de basket a refusé près de 100 000 licenciés à l'échelle nationale, faute d'installations sportives suffisantes. En 2023, c'est incroyable, 100 000, c'est fou. En 2023, la Fédé de basket a refusé 100 000 licenciés parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas les terrains, ils n'ont pas les encadrants. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas l'envie de faire du sport qui manque. Hein. C'est énorme. Bah oui, moi, je pensais que c'était 10 000, mais c'est 100 000. Je trouve ça complètement fou. Je trouve ça insane. J'ai presque envie de vérifier ce chiffre, ça me paraît presque trop gros. Alors on va vérifier. Moi, je dirais 10 000, mais on va vérifier. On a le temps, on est sur Twitch. Fédération Basket 2023. Je trouve ça beaucoup, moi. 100 000 licenciés. C'est bizarre. On va vérifier. C'est impossible. Ah! Je vois qu'en 2024, par exemple, il y avait 725 000 licences. Donc, si, c'est possible, c'est pas impossible. Ah, si, ça se tient. C'est possible. Je vérifie. Hein. On fait ça ici, on vérifie les infos quand on peut. Ah ouais. Là, j'ai un article de la filière basket, là. C'est en France ? Ouais. Communiqué du 18 avril 2024. La Fédération française de basket a annoncé en avril 2024 avoir battu son record de licenciés. 725 000 licenciés pour la saison. Ce record intervient alors que la Fédération française de basket a refusé près de 180 000 jeunes ces deux dernières saisons. Donc non, c'est incroyable, c'est même plus. C'est 100 000 en 2023 et manifestement 80 000 l'année d'avant. Chiffre de la Fédé. Alors, on a vérifié et c'est ouf. Et c'est ouf. Donc on a des jeunes Français qui veulent faire du sport, du basket en l'occurrence, sans doute lié aux performances des équipes des Français en basket féminin et masculin, évidemment. Hein, ça joue. De même qu'on sait qu'après une grande compétition où il y a des judokas, des escrimeurs français qui s'illustrent, ça donne envie à des jeunes Français de se lancer. En 2 ans, on a refusé 180 000 licenciés pour la plupart des jeunes. Quoi. C'est dingue. Hein. Salut Valentin, bienvenue. Valentin qui disait, je ne pensais pas que tu faisais des live Twitch. Un petit peu de temps en temps, petit stream comme ça, à droite, à gauche. Voilà. C'est ouf, hein. Voilà. Donc c'est très intéressant, vous voyez. Donc, c'est là où... Donc, la solution, c'est quoi? C'est une volonté politique derrière. Après, il faut, faut décider de mettre des crédits, de l'investissement. Qui dit infrastructure, dit encadrement, dit budget. Pourquoi refuser ces personnes? Je ne comprends vraiment pas. Nagayo, ce n'est pas compliqué. Pour accueillir des jeunes dans un club de basket, il faut un terrain de basket. Il faut un terrain de basket libre. S'il y a trop de licenciés dans le club pour le nombre de terrains de basket, ils ne peuvent pas s'entraîner, ils ne peuvent pas jouer. Voilà. Donc il faut des terrains. Puis après, il faut des encadrants, parce que tu ne vas pas mettre les gamins sur le terrain en disant « Hey les gars, voilà le ballon, dans 15 ans, c'est les jeux. Hein. » Non, mais il faut les encadrer, les accompagner, voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas les moyens, quoi. C'est ouf. Je trouve ça hallucinant. C'est passionnant. Je poursuis l'article de La Croix. Un an avant le début des Jeux Olympiques, un rapport parlementaire expliquait qu'il fallait redonner ses lettres de noblesse à l'EPS, l'éducation physique et sportive, en faire une discipline pédagogique à part entière, si on veut faire de la France une nation sportive. Hein, c'était un rapport des députés Stéphane Mazard et Stéphane Peu. Voilà. Et moi, ça, c'est un truc, c'est une de mes marottes, un truc que je dis depuis longtemps, hein, c'est mon côté un peu vieux schnock. Les gens qui disent que la France n'est pas une nation de sport, c'est faux, quand on voit les résultats des sportifs français. On est une nation de sport, en revanche, on est une nation où le sport n'est pas assez... mis en avant à l'école. On a un tissu associatif sportif formidable en France, formidable. On a un tissu associatif des clubs qu'une partie importante du monde nous envie, donc ça c'est super. En revanche, ce qui ne va pas, c'est le sport à l'école, voilà, qui n'est pas assez mis en avant, quoi. Pas assez de moyens, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc vous savez qu'il y a des pays, États-Unis mais d'autres aussi, où il y a une partie du temps scolaire beaucoup plus importante qui est consacrée au sport. Alors, ce serait bien pour le sport, ce serait bien aussi pour la tête, parce que je pense que le sport, c'est aussi quelque chose qui peut apporter un équilibre de vie, une hygiène de vie. Je pense qu'on devrait réorganiser le temps scolaire, je ne sais pas, peut-être diminuer les vacances, par exemple. Voilà. Et puis, moi, je serais ministre de l'Éducation, plus de devoirs, déjà. Le temps de l'école, c'est le temps de l'école. C'est le temps du travail, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps... On va arrêter les 2 ou 3 heures de devoir tous les soirs passé un certain âge, là. Voilà. Ça, je trouve que c'est... Et libérer ce temps, voilà, le temps l'après-midi, et pourquoi pas en début de soirée, pour les activités artistiques, culturelles, sportives, quoi. Voilà. Ça, c'est une de mes marottes, ça. Il y a Clément qui dit ça leur fera les pieds à ces mioches, t'es con. Nous voilà. Donc ça, ce serait une façon. C'est pas la seule d'ailleurs, parce que Ça ne passe pas que par le sport à l'école, parce qu'on a un très bon tissu associatif. Donc il faut, je pense qu'il faut plus aider les assos, mettre plus de sport à l'école, plus de moyens, plus d'argent dans les infrastructures, hein, les terrains, les accompagnants. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra faire de la France une très grande nation du sport à long terme. À partir du moment où on pense que le sport c'est important pour une société, je pense que le sport est important pour une société, et notamment pour sa santé. On sait que si les Français se mettaient à sans faire du sport, sans faire de la compétition, mais se mettaient à plus bouger. On a des chiffres, les chercheurs sont assez catégoriques là-dessus. Si les Français étaient moins sédentaires, bon, moi je suis pas un exemple, je suis devenu très sédentaire aujourd'hui à cause du stream, mais bon, peu importe. Je vais me remettre au sport, il faut que je retrouve un équilibre d'une hygiène de vie un peu meilleure. Mais si les Français se bougeaient un peu plus, avaient une meilleure hygiène de vie là-dessus, voilà. Sans aller jusqu'à faire de la compétition, mais marchoter de temps en temps, aller courir de temps en temps, faire un petit peu de vélo, etc. Le bénéfice en termes de santé personnelle et en termes d'économie pour la société sur les frais de santé serait énorme. Serait énorme. Moi, je suis passé du sport extrême où je faisais beaucoup, beaucoup à rien parce que j'ai libéré ce temps pour le stream. Mais je vais retrouver un équilibre de vie. Il faut. Parce que 5 heures sur Elden Ring, c'est bien. Mais bon, c'est pas du sport. C'est pas du sport. Voilà, j'adore, hein, mais c'est pas du sport. Et la santé mentale. Vous avez raison. Moulbit et Cédric Sushi. Quelqu'un sait si l'escrime, c'est un gros budget pour en faire ? Alors moi, je sais, hein, parce que moi, j'ai fait 12 ans d'escrime. Quand j'étais petit, non. Souvent dans les clubs, quand t'es petit, le matériel, on te le prête. Voilà, donc tu peux faire de l'escrime pour que dalle, en fait. Hein. Voilà, c'est un, souvent, pour les tout petits, ben le matos, on te le prête ou tu le loues. Voilà, et le matos, il n'est pas si cher, en vrai. Chez Decathlon, j'ai pas d'action chez Decathlon, t'as des tenues d'escrime comme tout chez Decathlon, pas cher. Tu peux t'équiper pour vraiment pas cher, quoi. Donc non, c'est un beau sport, l'escrime. Enfin, tous les sports sont beaux, d'ailleurs. Faut trouver celui qui correspond, qui te correspond, quoi. Faut être grand pour l'escrime ? Ah bah non. Tu m'as vu ou quoi ? Bon, après, je suis pas champion olympique, mais... Tiens, regarde, les rois panda fait de l'escrime adulte, 400 euros tous les ans et loue le matos au club. 400 euros tout compris. Lucas, il faut savoir que le PS est une des disciplines les plus questionnées à l'école. Étant moi-même prof de PS, la question de sa place à l'école fait partie intégrante de notre formation. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait plus. Bah 400 euros sur l'année, ça va en vrai. Oui, c'est cher, mais oui. Oui, c'est cher, mais sur l'année, ça va. Pour un adulte, pour un enfant, ce serait moins cher, je pense. Pour un adulte, c'est-à-dire que tu... Ça fait quoi ? Ça fait 40 balles par mois. C'est bien dépensé. Tiens, regarde, Zabetra me dit que le tennis, c'est 2000 balles par an en adulte. On parle pour un adulte. Hein. Je pense que pour un enfant, c'est moins cher. Est-ce que tu joues à Valo après ? Peut-être, Elie Solan, peut-être enchaîner avec un stream de gaming. Ouais. Archibars, à Paris, 2000 euros, non. Moi, mon grand, il fait de l'escrime à Paris. Je veux dire, ça, c'est pas 2000 balles. Hein. C'est pas 2000 balles. Merci Pounia pour le 36e mois et pour le message. C'est trop gentil. 3 ans d'abonnement consécutif. Vous êtes ouf. Merci beaucoup. Bon, joyeux dossier dans la croix. Voilà, maintenant, vous avez la recette pour qu'il y ait plus de sport en France. L'humanité, comme les autres. Tu parlais du tennis ? Ah, Archibas parlait du tennis. Ah, c'est peut-être. Je connais pas le tennis. Je suis nul en tennis. C'est combien d'inscrits à Paris ? Bah, je sais plus. Mais c'était OK. C'est un grand club en plus qui fait plein d'autres sports, qui est un club omnisport, hein, qui a une vieille histoire et tout, qui est vraiment super. L'humanité séduite également. La folle quinzaine olympique s'est achevée ce dimanche, marquée par un bel engouement populaire, une moisson tricolore historique et le pari réussi d'organiser pour la première fois les épreuves au cœur de la ville. Donc c'est intéressant que des journaux aussi différents que Le Figaro, que L'Humanité, que Le Parisien, que Libération soient séduits. Comme je vous le disais, globalement, tous les journaux trouvent que ces jeux ont été réussis. Mais ces journaux n'oublient pas qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Tout ne peut pas être parfait. Et ce n'est pas en rappelant les trucs qui ont été ratés qu'on dit que ces jeux ont été, n'ont pas été réussis. Mais je pense qu'il faut ne pas aussi se cacher des choses qui n'ont pas été réussies, ouais, par honnêteté intellectuelle. Ici, on a parlé, par exemple, de la question des SDF. On sait que les SDF, aujourd'hui, ont été éloignés de Paris. On le sait, c'est documenté. On sait, de la question du logement étudiant, hein, les chambres en crousse, on a demandé... on a plutôt obligé les étudiants de quitter ces chambres pour faire de la place. Bon, ça, on ne peut pas dire que ça soit très, très bien passé. Voilà. Et l'humanité rappelle, hein, tous ces couacs. On n'oublie pas, écrit l'humanité ce matin, que les pouvoirs publics ont mis en place un nettoyage social pour présenter un village sans aspérité de Paris. C'est vrai. Que les étudiants du Crous ont été virés de leur logement pour quasiment les mêmes raisons. C'est vrai. Que le pouvoir en a profité pour expérimenter la vidéosurveillance algorithmique. C'est vrai. Comme dans chaque JO dans le monde, bien sûr, hématome, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Pas parce que les autres font de la merde qu'on est obligé de faire la même merde. Hein ? On n'oublie pas qu'Emmanuel Macron et son gouvernement démissionnaire ont fait jusqu'à la nausée leur miel médiatique de chaque titre. C'est pas faux. On n'oublie pas que le chef de l'État a instrumentalisé les traditions olympiques pour décréter une fort opportune trêve politique. C'est pas faux. Donc on n'oublie pas que la Macronie a perdu l'élection législative anticipée. Bah, oui, personne n'oublie. Et que cette réalité va se rappeler à lui dès ce lundi matin. Bon. Mais l'humanité dit par ailleurs que les jeux ont été réussis. Donc c'est pas... Moi, je trouve ça assez OK de dire que tout n'a pas été parfait, que des choses ont été ratées, et pour dire parallèlement que globalement, cet événement a été réussi. Voilà. C'est ce que fait l'humanité ce matin. C'est pour ça que je voulais vous lire l'humain. Je ne comprends pas pourquoi on clôture les Jeux avant que les Paralympiques soient faits, disent-ils. Alors moi, de ce que j'ai compris, c'est tout simplement deux événements sportifs différents. Je crois que ça n'est même pas, j'ai l'impression que ça n'est même pas le même comité. Vous allez peut-être me le confirmer. Hein, et c'est pas le même événement, en fait. Et j'ai même lu ce matin, je ne vous ai pas mis l'article de côté, mais il y a une flamme des Jeux Paralympiques qui est une autre flamme. Et qui... Voilà. Ah oui, c'est ça. CIO et CIP. Voilà. Et il y a une autre flamme qui arrive. La flamme des Jeux Paralympiques. C'est assez incroyable. Voilà. Mister Azerty me le confirme. Ce n'est pas le CIO qui gère les Jeux Paralympiques. Ce n'est pas le même vote. C'est ouais, deux Olympiades différentes. Ce n'est pas le même comité, c'est ça. Et moi, j'ai même appris ce matin qu'il y avait une autre flamme, en fait, qui allait arriver là. Et c'est une flamme c'est plusieurs flammes même, j'ai lu. C'est pas une flamme, c'est plusieurs flammes paralympiques qui vont arriver. C'est toute une histoire. Du duche, du rock aux arts, je comprends mieux maintenant. Bah, moi aussi, je t'avoue, je ne le sais pas depuis très longtemps. Merci, Shin Has No Enemies, pour le Prime. Douze flammes, apparemment, peut-être, oui. Vous savez quoi ? Puisqu'on est sur Twitch et qu'on a le temps, moi j'aimerais bien trouver une petite histoire des Jeux Paralympiques. Comment c'est né cette histoire ? Hein ? C'est pas inintéressant, non ? Histoire, je tape des Jeux Paralympiques. Hein. À notre époque, avec Internet quand même. N'oubliez pas que moi je suis né et j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas Internet, donc je suis d'une autre génération. Et moi je suis de ceux qui... sont fascinés de ce que Internet peut permettre de faire en termes d'informations quand on sait, évidemment, chercher les infos. L'histoire des Jeux Paralympiques, j'ai trouvé un truc intéressant là. Olympics.com, Théma. L'histoire des Jeux Paralympiques commence en 1948, c'est très tard, dans un hôpital militaire situé au nord de Londres. Sir Ludwig Guttmann, neurologue allemand, cherche un moyen d'accélérer le rétablissement de ses patients paraplégiques. Tous vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Son unité spécialisée réunit des pilotes de la Royal Air Force, tous en fauteuil roulant. Il imagine alors des épreuves sportives au moment même où les JO se déroulent à Londres. Voilà. 16 vétérans, blablabla. Donc 52 premiers Jeux internationaux, ça ne s'appelle pas les Jeux paralympiques. 54, 14 nations engagées, surtout des paraplégiques. Au début, donc, sont des blessés de guerre, hein, vous l'avez compris. 55, quatrième édition, c'était tous les ans à l'époque. 18 nations engagées, 200 compétiteurs. 1960, on estime que c'est les premiers Jeux paralympiques, c'est à Rome. C'est 6 jours après la clôture des Jeux olympiques. Donc on commence à comprendre maintenant, c'est autre chose. 5000 personnes qui assistent à la cérémonie d'ouverture, 400 athlètes. 8 sports, para-athlétisme, basket, fauteuil, para-natation, para-tennis de table, para-tir à l'arc, escrime, fauteuil. Tokyo, 1964. Donc là, on est après les Jeux Olympiques. C'est intéressant. Et ça progresse. 76, par exemple, Montréal, 1657 athlètes. Apparition du goalball. 80, du volleyball assis. Oh, elle est belle cette image. Ah, 1989, fondation du Comité paralympique international. Vous voyez, c'est une histoire moderne. C'est une histoire très, très récente, finalement. C'est pas très vieux, hein. Progressivement, on voit apparaître de nouveaux sports. Et voilà, 2001, date importante, regardez. Un accord est signé entre le CIO et l'IPC, donc côté paralympique, pour garantir, mais c'est deux organisations différentes. Merci Jeffrey pour le Prime. Merci Kyojin Sama. Merci encore à Tsuo. Merci à tous les trois. Pour garantir qu'à partir des Jeux de Pékin 2008, les Jeux paralympiques se dérouleront toujours peu de temps après les Jeux olympiques et utiliseront les mêmes installations, les mêmes sites sportifs, le même village des athlètes, la même prise en charge des frais d'inscription, des frais de déplacement. Ça date de 2001, c'est pas très vieux. Chaque future ville hôte choisie pour les Jeux olympiques sera donc tenue d'organiser les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et ça date de 2001 seulement. Ça commence à Athènes en 2004. C'est incroyable, vous voyez, c'est pas très vieux. On comprend maintenant pourquoi c'est assez dissocié quand même. Vous voyez, voilà, c'est l'intérêt de Twitch, on a le temps, on s'est posé la question, mais pourquoi il y a autant de différences finalement en termes d'organisation? Et on se rend compte que voilà, c'est quand même deux événements différents, même si depuis 2001, les villes hôtes des JO ont l'obligation d'accueillir les Jeux paralympiques également. Voilà, ce qui n'est pas très vieux quand même. Et ce qui aussi reflète, heureusement, la sensibilisation croissante des populations, des sociétés, à la question du handicap. Et les seuls, ça existe encore question pour un champion? Ouais, vaguement, ça existe, ouais. On va dire, on est sur la case horaire, comme on dit en télévision, numéro 1 ou numéro 2 des audiences chaque soir, toutes chaînes confondues. Donc ça existe encore bien même, tu vois. Vaguement, 1,5 million de téléspectateurs par jour. Vaguement, tu vois. Donc ça existe, quoi. 1,5 million en moyenne, hein, pas en pic. Hein, en moyenne. Donc ça existe un peu, quoi. Ça existe un petit peu. Bon là, il y a eu les JO, donc on en a fait un peu moins. On a un petit peu laissé notre place au jeu. On était très contents d'ailleurs. Mais à la rentrée, ça va repartir très fort. Ça flex? Ah bah ça flex, ouais. D'ailleurs, regardez, c'est une chouette émission, t'apprends plein de trucs. Puis il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Je connais l'animateur, c'est un gentil gars. Il est pas malin, mais c'est un gentil gars. Tu es plus reconnu pour Question pour un champion, pour tes streams, demande de Kipsta. Bah, surtout pour mon physique avenant, en fait. Surtout pour quand on m'arrête dans la rue, c'est surtout pour mon physique. Souvent on me dit waouh, vous êtes vraiment incroyable. Cette allure, cette démarche un peu féline, voilà. Espèce de ce acquis des rois. On parle surtout de ça. Voilà. Parfois, on parle un petit peu de la télé aussi, de Twitch, mais c'est surtout pour mon charisme rayonnant, comme dit Argentum, Argent qui m'a déjà croisé sans doute IRL. Voilà. Ça va les chevilles? Ouais, c'est vrai. On me complimente aussi pour les chevilles, Hugo. C'est vrai que c'est très... Comment tu sais ça? Tu m'as déjà vu en short, toi. On me complimente aussi pour mes chevilles, c'est vrai. Merci, Geoffrey, pour le prime. Le mec, il a un de ces boules-là. J'ai un, effectivement, Fab, j'ai un joli petit boule aussi. Ouais, c'est, on me le dit aussi dans la rue, ça. C'est vrai, c'est vrai. Comment vous savez tout ça? Vous m'avez déjà croisé, vous, non? C'est fou, ça. Vous êtes bien informé quand même. Hein. On voit qu'on est sur une communauté informée, là. Une communauté de qualité. Ça fait plaisir, en vrai. Des gros pecs. Non, plus le boule qui chamboule. Comme dit Pomelo dans le chat. Le pec, c'est pas mon point fort. Voilà. Certains m'ont croisé IRL, comme Over Psycho. Sacré boule, je confirme. Voilà. Info. Es-tu possible... Il y a Roscoe qui dit, est-il possible que tu te mettes debout dodo pour qu'on puisse juger? Non, non. Twitch France m'a interdit de me mettre debout dodo parce que c'est trop. C'est-à-dire qu'en fait, la tension que ça provoque en termes d'intensité de stream est trop importante pour l'état actuel des réseaux. Voilà, pour la capacité de Twitch monde d'encaisser cette intensité dans le flux. Voilà. Donc j'ai un mail que je pourrais vous montrer. Et bon, je suis par contrat, je suis interdit de me mettre de dos sur mes streams. C'est interdit. J'ai pas le droit. Sinon, moi, je suis ban. Je suis ban def. Merci Bushrod pour le 9e mois. Le boule qui chamboule, exactement. Hein? Comme le dit Mini Monster, 5-4 viewers le matin, c'est pour le boule. Bah oui, vous n'êtes pas tous là pour l'actualité. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais Viegle Zas rappelle cette anecdote. Une fois, j'étais en Corée du Sud, je l'ai fait, c'est-à-dire je me suis mis de dos en Corée du Sud sur un stream. Twitch a été supprimé en Corée du Sud. Twitch n'existe plus en Corée du Sud. Ils ont d'autres trucs pour streamer, mais Twitch a été supprimé en Corée du Sud. Tout le monde ne le sait pas, mais ça vient de là. Je me suis retourné par mégarde, hein, un moment d'inattention. Voilà. Je me suis mis de dos sur une chaîne amie et Twitch a été supprimé en Corée du Sud. Ouais. C'est fou. Ouais, je sais. C'est incroyable. C'est ma vie. Oh, on s'habitue, hein. Je suis habitué à tout ça. Merde. On s'habitue à tout, hein. Voilà. Je vais me faire un petit café, moi, par contre. Je vous mets une. Cette tasse est vide. Je vais faire un mini café, j'en ai pour 2 minutes. Je vous mets une mini pause, genre de 2 minutes. Je vous mets une petite musique à la cool. Et dans 2 minutes, on continue la revue de presse pour parler. Des jeux pour parler de l'actu internationale, pour parler de l'actu politique en France. Restez avec moi. On va continuer à parler de mon boule, bien sûr. Mon boule qui chamboule. Elle est où la musique? Elle est là. C'est bien ça ou pas? Je cherche une petite 2 minutes de musique. Ouais, c'est pas mal ça. 2 minutes de musique et je vous retrouve juste après pour le reste de la revue presse. Voilà, merci d'être là. Vous régalez. À tout de suite, bande de belles personnes. Je mène la musique aux abonnés. Un petit coup de pub pour les autres. Let's go, à tout de suite. C'est une belle chanson, vous allez voir. We'll be right back. Ouais, je chante aussi bien que je bronze. C'est un peu l'idée. J'espère que vous allez bien. Ceux qui étaient en pub ne l'ont pas vu. C'était un petit cadeau pour les abonnés. Ceux qui, du coup, n'ont pas de pub. J'ai remontré mon bronzage de ce week-end là, qui est particulièrement réussi. C'était magnifique. Bon, t'as les tatouages depuis quand? Depuis toujours, Alex, en fait. Je suis effectivement un petit peu tatoué, un petit peu beaucoup tatoué. En fait, j'ai le corps recouvert de tatouages. C'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça. Voilà. Certains disent que c'est lié à mon passé de Yakuza. Mais ici, nous ne commenterons pas ces infos. Somsal, merci pour l'abonnement offert à Le Boule de Samumu, qui est un joli pseudo. Merci à toi. Merci aussi à Bushrod. Voilà. Nous ne commentons pas ça. Voilà. Voilà. J'ai eu la chance de... La société, parfois, donne une deuxième chance aux citoyens. Bon, j'ai eu la chance de, effectivement... D'avoir cette deuxième chance et de devenir journaliste, puis animateur, aujourd'hui streamer. Ce qui est fait, est fait. Voilà. Mais c'est justement, la dette a été payée et cela ne nous regarde pas. Tu ne les as jamais montrés ? Si on cherche bien, on les trouve. Mais surtout, aux The Event, si jamais on atteint un certain palier, je les montrerai tous. Ouais. Allez, on prend la revue de presse ou quoi ? Let's go! C'est un sub-goal. Et aussi ma candidature à la présidentielle. 1 million d'euros de dons pour les assos du The Event sur ma cagnotte et je me présente à la présidentielle. Je crois que les tatouages, c'est 150 000 euros. Ouais. Ça peut se faire 150 000 en vrai. Ouais, le million, il faudra vraiment le faire. Il n'y a pas encore de lien Reaper, mais je vous le mets bientôt. Il faut que je vérifie un truc avec Zera là, sur justement les donation goals, tout ça. Alors, l'opinion ce matin, on prend la revue de presse sur les Jeux Olympiques, pour terminer cette page olympique. Ce qu'il faudrait garder des Jeux, c'est la une de l'opinion. Sur le long terme, notre pays gagnerait à faire durer les points positifs redécouverts pendant la quinzaine. Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. La réussite des Jeux a dépassé largement le cadre du sport pendant 2 semaines. Hein, le pays s'est retrouvé métamorphosé, estime l'opinion. Les transports ont fonctionné. Waouh ! Tu as raison, Zanetti, tu as raison. La sécurité assurée, ouais. Les Français se sont même mis à s'aimer. On va s'aimer. C'est pas faux. Et si, soyons fous, on prolongeait un petit peu cette parenthèse enchantée, nous dit l'opinion ce matin. Mikiso, merci beaucoup pour le 4e mois, c'est adorable. Fabinho, merci pour le 18e mois, merci de ton soutien. La sécurité capitale soudain apaisée. Hein, l'État, conscient de l'enjeu, a mis le paquet, mobilisant quotidiennement 35 000 policiers et gendarmes, 15 000 militaires pour sécuriser la capitale. Pour ceux qui sont promenés à Paris pendant la quinzaine olympique, c'était fou, il y en avait partout, des uniformes partout. C'est vrai que et ça se passait plutôt bien, on se sentait, c'est vrai, très en sécurité. Résultat du bleu partout, explique l'opinion. À chaque coin de rue à Paris, des quartiers soudain apaisés, des parcs se réapproprient les habitants en soirée, Stade de France sans canaille rôdant autour, métro débarrassé de ses pickpockets et ses images virales de forces de l'ordre fraternisant avec touristes et athlètes. Et le francilien, l'habitant de l'Île-de-France, se prend à rêver. Et si cela continuait, hein, voilà. Sauf que c'est pas tout à fait possible. Un chiffre a circulé ces derniers jours, explique l'opinion. Pour maintenir le niveau actuel de mobilisation en termes de sécurité, il faudrait recruter 100 000 membres de forces de l'ordre supplémentaires. Mais ce chiffre est fantaisiste, dit-on au ministère de l'Intérieur, qui rappelle que ce dispositif exceptionnel ne s'est expliqué précisément que par le caractère exceptionnel de l'événement, et notamment le fait que les forces de l'ordre, en échange d'une prime, n'ont pas pris de congé, hein, ce qui est évidemment pas possible à long terme. Il faudrait appliquer la politique du zéro congé, moyennant une prime de 1 900 euros maximum par agent. C'est ce qui s'est passé pour les Jeux, évidemment intenable sur la durée. Mais l'entourage de Gérald Darmanin l'assure, il y aura bien un héritage des Jeux en matière de sécurité malgré tout. Avec les Jeux, 10 000 postes de force de l'ordre ont été créés pendant le premier quinquennat, 8 500 pendant le deuxième. Selon Darmanin, c'est un effort sans précédent, puisqu'avant, on était auparavant sur une tendance à la baisse. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit l'opinion ? Ce serait cool si en termes de sécurité... on pouvait maintenir cet effort en termes de présence policière, etc. Sauf qu'en fait, ça a un coût. Ça a un coût. Un coût de fou. Non, pas du kung-fu. Un coup de fou, ma grosse. Alors ça, c'est pour la sécurité. Transport. Un CDF. Arwen C. Tu me régales, Arwen C. Tu me régales. Sécurité. Transport. Hein, des chiffres de ponctualité et d'efficacité hors du commun. Hein. De l'espace dans les rames, des flux bien maîtrisés, pas de bousculade, pas de panne, métro, RER. Mais la folie, hein, le rêve. Là aussi, c'est aussi une question de moyens supplémentaires qui ont été mis. Quoi. Ce qui restera peut-être, ce seront les infrastructures supplémentaires qui ont été mises en place, par exemple le prolongement de la ligne 14 vers le nord jusqu'au nouveau carrefour de Saint-Denis-Pleyel, même bouffée d'oxygène avec le prolongement de la ligne 11 du RER E. Donc il y a des choses qui vont rester niveau des investissements. La propreté. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui trouvent que Paris est sale. Je connais ce discours. Paris est dégoûtant. Paris était plus propre avant. Moi, je vis à Paris depuis 30 ans. Paris est comme avant. Tu sais, à une époque, il y avait des crottes de chiens partout. Puis après, ça, il y a eu les motocrottes, tout ça. À une époque, moi, j'ai connu Paris, il y avait du caca partout. Il y avait des crottes de yinche, mais partout. Tu ne pouvais pas marcher une heure sans Paris sans marcher dans de la merde. Vous n'avez pas connu ça, vous. Moi, j'ai connu ça. Il n'y a plus ça. Donc, globalement, Paris est plus propre que... Sur 30 ans, je dis. Après, je sais qu'il est de bon ton de dire que Paris est dégueulasse. Moi, j'y suis depuis 30 ans. Je n'ai pas trouvé que Paris était plus sale qu'avant. Je dirais même un peu plus propre qu'avant. Voilà. Mais, pour revenir à aujourd'hui, tu as connu Paris à cheval avec l'invention de la machine à vapeur. J'ai connu Paris avec des ours.
moi j'ai connu Paris avec des ours et des grottes. Il y avait des grottes d'où sortaient des ours. Passer à la tombée de la nuit en hiver 18h, tu ne sortais pas dans la rue le soir à cause des ours. J'ai connu ça, moi. Donc, propreté à Paris, il y a eu un mieux, disent certains. C'était donc possible. Les Franciliens ont eu le sentiment de redécouvrir un réseau de transport pimpant. Mais les habitants ont aussi vu leur ville globalement comme ils ne l'avaient plus vue depuis des années. Poubelles vidées, rues lavées. Bon, moi, je trouve que... Bon, moi, je trouve pas que Paris est sale. Tu vois, par rapport à avant. Sur la propreté, on avait rehaussé bien avant les Jeux notre dispositif de sécurité. C'est mieux parce que maintenant, ça se voit, dit la maire de Paris. Le discours destructeur ne correspond pas à la réalité, mais il va falloir durer ce moment-là. Anne Hidalgo dit « Ah, on a quand même fait des efforts sur la propreté ces dernières années, alors ça commence à se voir. » Bon. La ville a effectivement mis 4 équipes supplémentaires sur les rangs. Suffisait-il donc de cela pour que Paris ne soit pas une poubelle à ciel ouvert, même si certains estiment que le coup de collier a surtout été mis sur les quartiers vitrines. Alors moi, j'ai lu une autre explication pendant les Jeux dans la presse. C'est que la capitale aurait été plus propre pendant les Jeux parce que les touristes seraient plus propres que les Parisiens d'habitude. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est très subjectif. Moi, j'ai pas l'impression que Paris est plus sale qu'avant. Bon. Merci Mikiso pour le 4e mois. Again. Donc, je suis mal placé parce que moi, je me promène dans tout Paris et je dis pas que Paris est propre, mais je n'ai pas le sentiment que Paris est plus sale qu'avant. Et puis, comme le dit El Panda ce temps-là, il y a carrément moins de monde dans Paris également, donc moins de déchets. L'été, Paris se vide. Et cet été-là n'a pas fait illusion. Moi, c'est pour ça que j'aime Paris. Paris l'été, c'est super agréable. Ça circule, ça respire, les gens sont détendus. Il y a beaucoup moins de monde. Donc, moins de pollution aussi, je pense. Les gens qui mettent qui jettent leur mégot à 3 mètres d'une poubelle, on vous voit. Ah ouais, ça me rend fou, Théo Lenji. Ça me rend fou. Je me suis fâché. Je raconte toujours les mêmes anecdotes pourries de vieux. Je me suis fâché avec une copine il y a longtemps à Rennes, en Bretagne, pour ça. Meuf était en voiture. Bon, elle fume. Ouais. Fumait tous à l'époque. Impeccable. On ne se connaissait pas depuis très longtemps. Hein. Maman, elle descend sa vitre. Parce que jusque-là, pas répréhensible, quoi. Ça veut dire. Elle prend son cendard, le cendrier de la voiture qui était plein de clopes, elle le prend et elle le vide dans la rue, par-dessus la fenêtre, quoi. Bon, j'étais pas un gros militant écologiste, moi, hein, à l'époque. Hein. Je la regarde, je fais, mais tu fais quoi? Je dis, bah, quoi? Tu viens de vider ton cendrier, mais il y avait, je sais pas, il y avait 15-20 clubs, quoi. Dans la rue, mais ben oui. Donc tu sentais que c'était coutumier, habituel, familial, enfin que c'était pour... C'était courant, Jimmy dit c'était courant à l'époque. Bah même à l'époque, moi, on va dire 1900, allez, je vais te donner une année. On est sur du 92-93. Ben même moi à l'époque, ça m'a choqué. Pourtant, j'étais pas trop sensible à ces questions, quoi. Non, pas en 1924. Et là, ça m'a un peu refroidi dans la relation. Ça m'a refroidi alors que pourtant les mégots étaient éteints. Mais ouais, je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Non, parce que c'était au-delà du côté écologique. Un mégot, c'est très très long à disparaître, vous savez, dans la nature. C'est même la question de la vie en société, du vie avec les autres, quoi. 92, avant ou après Jésus-Christ? Anecdote de merde, mais bon, quoi, les comportements individuels qui vont pas bien quand même. Imagine la personne regarde ce stream. Imagine la personne regarde ce stream. Je pense pas. Mais bon. Bah, ça, bah, sache que ça m'a beaucoup choqué à l'époque. Je donne pas de prénom, quoi, faut pas décoller. Donc, en matière de propreté, peut-être que ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est aussi une question de comportement individuel, quoi. Voilà. Depuis l'EHPAD. Peut-être que la personne regarde ce stream depuis l'EHPAD. Putain, vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule? Mais c'est dingue, ça. C'est pas possible. La leçon olympique. Quelle leçon tirer de ces jeux? Se demandent les échos ce matin. Ces Jeux olympiques qui ont redonné le sourire à la France. À tout point de vue, l'événement a tenu ses promesses et a offert aux Français une parenthèse bienvenue. À la scène, pardon. Hop, la une des échos. Hop, l'article. L'ambiance olympique a pris le pas sur les crispations en tout genre. Voilà, la plus grande surprise des Jeux, même les Français, j'adore ça, même les Français ne trouvent rien à redire, a résumé le Wall Street Journal. Même les Français n'ont pas critiqué les Jeux, a dit le Wall Street Journal. C'est donc qu'ils sont quand même très réussis. Ça, j'adore ce truc. À l'heure du bilan, force est de constater que Paris 2024 a réussi son coup. Explique les échos, le choix d'organiser des épreuves sur des sites emblématiques, Invalides, Champ de Mars, Château de Versailles, s'est révélé payant. Et globalement, plus globalement, la carte postale envoyée au monde entier devrait renforcer l'attractivité de la destination Paris. Paris qui est une des principales destinations touristiques au monde, ça va sans doute renforcer ça. Paris également gagné pour Emmanuel Macron, peut-être qu'il faut le reconnaître aussi à un moment, Estime les échos, qui avait fait des JO un point d'orgue de ses quinquennats et qui s'est offert l'occasion d'une trêve politique. Le chef de l'État recevra lundi à l'Élysée, c'est aujourd'hui, des représentants de toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de ces Jeux une réussite. Forces de l'ordre, sécurité privée, pompiers, agents hospitaliers ou de la RATP sont notamment conviés. Les athlètes français, eux, ont le droit à une parade sur les Champs-Élysées le 14 septembre et le 15 septembre. Eh bien, une grande parade sera organisée sur les Champs également le lendemain, donc en l'honneur de Samuel Etienne. Nous explique les échos pour des raisons diverses et variées. Ce qui n'est pas une info, bien sûr, mais du troll, vous le savez. Les échos qui nous parlent grossement des Jeux paralympiques, merci les échos, qui espèrent surfer sur l'euphorie soulevée par les Jeux olympiques. Ils misent sur la dynamique des Jeux, même si la vente de billets est encore un petit peu poussive, c'est les infos de Libé, mais les échos y reviennent. Après 17 jours de transition, les épreuves de handisport vont donc pouvoir commencer à partir du 28 août. Ces Jeux sont volontairement calqués sur leurs prédécesseurs. La cérémonie d'ouverture se déroulera aussi en dehors d'un stade, ça je ne le savais pas. Donc cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. En dehors d'un stade, ce sera sur la place de la Concorde, ça c'est cool. Comment faire pour que la liesse populaire profite également aux Jeux paralympiques? C'est une vraie bonne question. Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, en parle comme du match retour des Jeux. 300 heures de diffusion en direct assurées par France Télévisions pour les Jeux paralympiques. C'est le double de Tokyo. Ok, GG France Télévisions. Les transports ont été aménagés pour les 350 000 visiteurs en situation de handicap attendus, navette, taxi. Même si la promesse d'une plus grande accessibilité du métro n'a pas été tenue. Bon, moi, c'est un des grands critiques que je fais sur le métro parisien. Je ne trouve pas normal que le métro parisien soit aussi peu accessible aux personnes en situation de handicap. Ces Jeux auraient pu être l'occasion de les rendre accessibles, sauf que ça coûte une blinde, nous disent les responsables. Donc, on ne le fait pas. Voilà, moi, ça me choque un petit peu. Il reste à faire. Après des débuts possibles, la commercialisation des billets, certes, s'accélère, mais pas assez pour l'instant. L'événement est moins massif. 4 millions de visiteurs sont attendus contre 10 millions pour la 15e olympique. Le défi sera de combler les compétitions avec le retour des franciliens au travail et la rentrée scolaire, a souligné Valérie Pécresse, la présidente de la région. Plusieurs écoles parisiennes ont déjà dû décaler leurs horaires d'accueil des enfants pour la deuxième semaine des Jeux paralympiques. Ouais. Parce que le métro est vieux, que ça coûte cher d'adapter. Ouais, c'est une taxe, mais je pense que notre société devrait le faire. Ouais. Le faire par tranche. Bah oui, faut mais le faire, oui. T'as raison, Duduche, mais au moins le faire par tranche, ouais. Comment c'est, quoi? C'est fou, hein. Ça coûterait sans doute moins cher que de rendre la scène propre, Twisted Art. Alors d'après les chiffres que j'ai vus, non, ça coûterait plus cher. Ça, c'est vraiment une histoire de plusieurs milliards. D'après ce que j'ai lu, je ne sais pas si l'info est juste. On parle de plusieurs milliards. À voir. Ça me paraît beaucoup, mais bon. Mais au moins par tranche. Mais par tranche, quoi. Pas. Ah ouais, remarque, non, il y a Better qui nous engueule, il a raison. Par tranche, comment tu fais? Tu fais comment une fois rentré, tu peux pas sortir? Oh bah ouais, si tu fais une ligne, par exemple, et tu prends une correspondance et que la ligne que tu empruntes, la deuxième, elle a pas de sortie handicapée. Comment tu fais? Pas con? C'est pas con. Il y a Better 33, et c'est pas con ce que tu dis. Eh oui, c'est pas con. C'est pas con. Londres, plus vieux métro du monde, ascenseur, escalator dans 100% des stations. Bière pour Dieu a trouvé le chiffre entre 4 et 6 milliards. Donc si les Anglais l'ont fait, c'est un budget, hein, 4 et 6 milliards. Si les Anglais l'ont fait, est-ce qu'on pourrait pas le faire? Ah, moi je fais pas de stream sauvage, MSX, je peux pas me le permettre. Tu sais bien. Hein? Si les Anglais l'ont fait, on peut le faire. Ils sont gentils les Anglais, mais... Non, c'est 1,4 milliard la scène, Marion. Oui, mais c'est vrai qu'il y a moins de stations à Londres. Il est un peu pourri le métro londonien, en vrai. Ouais, comme le dit Katsukaru, le métro de Londres n'est pas vraiment un modèle. Il est un peu pourri, en vrai. Merci OTR Stream pour le 5e mois d'abonnement. Ouais. On a toujours pas d'ascenseur dans toutes les stations, mais what the fuck, dit Tarakodo. Ah, c'est pas qu'on n'a pas d'ascenseur dans toutes les stations du métro parisien, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que dalle, il y a 3-4 ascenseurs qui se battent en duel, c'est une catastrophe. L'accessibilité du métro parisien, c'est une catastrophe. En tout cas, ici, on va suivre les Jeux Paralympiques parce qu'on trouve que c'est très important. Je vais vous en parler, je vais vous faire chier avec ça pendant les 15 jours de préparation et pendant les 2 semaines de la compétition. Ça va, Vortex, ça va. Un dernier dossier. Dans l'équipe, voilà, garder la flamme avec le magnifique Léon Bertrand et toutes ses médailles. Voilà, et un très bel édito de Lionel Dangoumo, directeur de la rédaction de l'équipe, qu'on a reçu sur cette chaîne Twitch d'ailleurs pour parler des JO et de l'équipe. Le jour d'après, écrit Lionel Dangoumo. Le jour d'après, bah, c'est aujourd'hui. Hein j'ai encore dit Léon Bertrand. Ah putain, je dis ça tout le temps. Ça fait 15 jours que je dis ça. Ouais, c'est à cause de Xavier Bertrand. Parce que comme le président Macron a testé l'idée de Xavier Bertrand à Matignon, ça m'a fait vriller la tête et je dis Léon Bertrand tout le temps au lieu de Léon Marchand. Je suis désolé, je fais ça à chaque stream. Ça fait 15 jours que ça dure. Je suis désolé, j'ai aucune excuse. Enfin, si, mon excuse, c'est Xavier Bertrand. Alors, je crois savoir pourquoi. Pourquoi je dis Léon Bertrand à la place de Léon Marchand? Quel rapport entre... J'ai une explication. Alors. J'ai une photo de fou, là. Quel rapport entre cet homme... Voilà, j'ai trouvé une photo. J'ai tapé Xavier Bertrand maillot de bain, j'ai pas trouvé. Donc, je l'ai trouvé en train de jouer au Jokari ou je sais pas quoi, à la plage, là. Voilà. Bon, bref. Bon, lui, là, il est où ? J'ai vraiment tapé Xavier Bertrand maillot de main. Voilà. Bon, quel rapport entre cet homme d'accord et cet homme ? Quel rapport ? Eh ben dans ma vie, il y a un rapport. Si, dans ma vie, à moi, il y a un rapport. Et c'est pour ça que je confonds. Non, c'est pas Ibras. Non, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai dans ma vie... C'est quoi cette musique ? Dans ma vie, j'ai croisé Xavier Bertrand à la piscine. Voilà. Et voilà. Et ça m'a un peu... J'ai croisé Xavier Bertrand à la piscine il y a quelques étés, il y a 4-5 étés. Voilà. Un été, j'étais en vacances, voilà. Je vais à la piscine, voilà, cool. Voilà. Et à un moment, qui je vois Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, et donc dans mon cerveau, ça fait Xavier Bertrand, piscine, ok, hein, Léon Marchand, piscine, voilà. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait l'association. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ce n'est pas une excuse, mais voilà. Donc je dis souvent, effectivement, je dis souvent Léon Bertrand. Voilà. Ça sent le mytho, ce truc. Non, je peux même te donner l'hôtel, mais je ne te le dirai pas que Ardent. Parce qu'on ne dit pas, je ne balance pas, parce qu'il était en vacances privées, quoi. Voilà. Mais on était dans le même hôtel, quoi. Voilà. Non, c'était pas à Lille, non. C'était l'endroit où il faisait très très beau. Et c'était pas dans la même chambre. Le jour d'après. Ça va, vous? Pas trop la déprime? Demande l'équipe ce matin. À quand question pour un inculte? Demanda Rotensor. Humour intéressant. Humour tellement intéressant qu'on a envie de découvrir l'historique d'Arotensor. Alors. Il est très bien cet historique. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as vrillé ou quoi? T'es bourré? T'as pas débourré de samedi soir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Rotensor dit, je suis prêt. Ton historique est très propre. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est la canicule? C'est la chaleur? Qu'est pas ça? Hombre! Question pour un inculte? Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est le jeu le plus difficile du PAF, nom de Dieu. C'est le jeu le plus difficile du PAF. Hein? Il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus... Qu'est-ce que tu... Va dire à Étoile, va voir Ayo et lui dire... Alors, quand est-ce que tu joues à question pour un inculte? Tu vas voir Ayo, tu vas voir Ayo les yeux dans les yeux et tu lui dis... Alors, c'est toi qui vas bientôt jouer à question pour un inculte? Il te marave. Il te prend 1v1 dans la rue, direct, là. Ils sont fous, là. Il te fume, direct. Et il filme. Et il balance ça sur Internet après. T'es fou ou quoi? Ne dis jamais ça à Rayou. Hein. Il va te démater. Hein. Il est fou, lui. Ne dis jamais ça à Rayou. Hein. Si jamais Étoile apprend que tu as dit ça dans mon live, il va te chercher. Hein. Pseudo, IP, n'oublie pas qu'il est ingénieur en informatique quand même, hein, en sécurité informatique. Pseudo, IP, tu vas dans, ça se trouve dans quelques heures, il est IRL en bas de chez toi. Hein. Rayou, c'est un fou, Rayou. Tu ne touches pas à question pour un champion comme ça. Hein. Il va te traquer. Il a le permis déjà? Je ne suis pas sûr, Bruno, je ne suis pas sûr. Il va prendre le VRR. Bon! Allez, on continue mon édito et arrêtez de dire de la merde sur question pour un champion. J'en étais où, moi? Alors, ça va, vous? Pas trop la déprime? Bon, si, manifestement, certains, si, quand même. Hein. La descente est rude, mais après ces deux semaines de grand bonheur collectif, pendant plus de deux semaines, le sport et les athlètes français ont joué leur rôle, libéré un tourbillon d'ondes positives. Pour lui, pour eux, pour nous, il faudra conserver précieusement les souvenirs de ces jours dorés. Pas pour les mettre au fond d'un placard, plutôt pour en entretenir les vertus et éviter l'effet aussitôt terminé, aussitôt oublié. Pour se rappeler que le sport, écrit l'équipe ce matin, est un formidable vecteur de rassemblement, oui, de partage, oui, que ses bénéfices dépassent la lecture à courte vue des bilans comptables et que les émotions qu'il procure sont uniques. Ça répond aux deux ou trois dans le chat depuis tout à l'heure qui disent « Ouais, mais alors ça coûtait combien votre truc ?» Est-ce qu'on pourrait voir le bilan comptable des Jeux Olympiques? Ça, j'en ai eu. Je ne les ai pas lus, mais j'en ai eu quelques-uns depuis tout à l'heure. Hein? Comment ça a coûté votre truc? Bon, ben voilà, l'équipe dit qu'il ne faut pas s'arrêter à des bilans comptables. Il faut les faire, ces trucs-là. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, s'engage dans l'entretien qu'il a accordé justement au journal L'Équipe à maintenir l'effort budgétaire engagé pour les Jeux de Paris, il faut espérer que cette promesse survivra à la réalité politique. Le sport a bien souvent constitué une commode variable d'ajustement. Il serait tellement injuste qu'il retourne à la même condition. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore convaincus, comment ça coûte votre truc là ? Ou qui regrettent d'avoir fui Paris, il reste une session de rattrapage, les Jeux Paralympiques. Vous n'avez aucune idée des règles du goalball ou de la boxia, boxia, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne connaissez peut-être pas encore Alex Portal ou Élise Marc, mais vous voudrez bientôt les applaudir et les encourager comme si votre vie en dépendait. Vous verrez, vous allez même adorer la rentrée. Ah, j'aime bien l'équipe qui se tourne un peu vers les Jeux Paralympiques, là. Je trouve ça formidable. Et je pense que l'équipe va être au rendez-vous. Je pense que c'est une sorte de pétanque, le boccia. Ok. C'est le pétanque avec balle en mousse. Ah ouais, mais comment vous savez ça, vous ? Ok. Moi, je pense que l'équipe va jouer le jeu avec les Jeux Paralympiques et vont bien couvrir le truc. Ouais. Je l'espère, en tout cas. Voilà pour la page. Les amis, on passe à l'Ukraine après. Voilà pour cette page Jeux Olympiques. Voilà. 2h30 de stream. Hein. Pour l'instant, on n'a fait que les Jeux, mais ça me semblait important. Au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques et à 2 semaines de l'ouverture des Jeux Paralympique. Qu'est-ce qui m'a marqué au jeu? Biles. Simone Biles. Moi, je trouve ça incroyable, son histoire. Teddy Riner, bien sûr. C'est beau. Les performances des équipes de France dans les sports co. Ouais, ouais. Le fameux Léon Bertrand aussi, bien sûr. Le triplé BMX avec les deux premiers qui se retournent pour voir si leur pote avait la médaille de bronze, je trouve ça très beau aussi. Et le frère Lebrun, bien sûr. Ouais. Ouais, le judo par équipe c'était beau. Le judo par équipe c'était beau. Ouais, c'est vrai. Très belles images. Oui, je troll Objectif Trap, c'est parce que j'arrête pas de buter sur le nom en fait. La médaille de bronze de Florent Nadou, c'était beau aussi. La médaille au surf, c'était très beau aussi. La médaille d'or pour Colivast, ouais. Ça c'était beau aussi, ouais. On voit des images, on a plein, on est comme ça. La cycliste aussi, la Pauline, formidable. Là. C'est quoi son nom de famille ? Ferrand Préau. Incroyable. Le volet français, alors ça, je l'ai suivi en direct, ça. Le volet français, les garçons du volet, incroyable aussi. Ouais. Ouais. Le 100 mètres en athlète, ben ça a obligé, le 100 mètres obligé de le regarder, le 100 mètres, toujours. Épreuve mythique, quoi. Ouais. Ouais. Bon, les amis, voilà pour cette belle page JO. Je n'ai pas oublié pendant toute cette séquence Jeux Olympiques le reste de l'actualité. Hein, quand je faisais des revues de presse, je vous parlais aussi du reste de l'actualité parce que ça me semblait important de ne pas l'oublier, voilà, et j'ai continué à vous parler de l'Ukraine, du Proche-Orient, de l'actualité en France, et ce qu'on va continuer à faire ce matin, avant d'enchaîner peut-être avec un stream de gaming. Voilà. Je vais peut-être enchaîner ce stream de revue de presse avec un stream de gaming, comme je l'ai fait récemment, avec Valo, avec Elden Ring ou avec Apex, je ne sais pas encore, ou alors faire une petite pause d'1 heure et de relancer. Ça va dépendre d'un truc que j'ai à faire là pour un événement, pour mercredi soir 20h. Retenez dans votre agenda, mercredi soir 20h, soirée, il y a un event, je participe à un event, il y aura d'autres streamers, d'autres streameuses, on va tous streamer ce truc, on est quelques-uns, quelques-unes, beaucoup de streameuses, c'est très bien. Moi je trouve que c'est très important de mettre en avant le gaming et l'e-sport au féminin, mercredi soir 20h, Apex Pizza. Je n'en dis pas plus, soirée Apex Pizza. Voilà, ce sera streamé sur ma chaîne, mais aussi sur d'autres chaînes de streamers et streameuses. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut que je teste un peu Apex avant, parce qu'on va jouer à Apex. Voilà. Donc, parlons de l'Ukraine maintenant, avec ce que nous suivons ici depuis plusieurs jours, c'est-à-dire cette incursion de l'armée ukrainienne sur le sol russe, hein, dans la région de Koursk, voilà, qui semble partie pour durer. C'est un article dans Le Parisien ce matin. Pour la première fois, ce week-end, Kiev, l'Ukraine, a reconnu mener une opération, parce que jusqu'ici, ce n'était pas confirmé officiellement côté ukrainien, en territoire ennemi, ce qui est assez incroyable quand même, c'est que c'est l'armée russe qui prend pied sur le sol, l'armée ukrainienne qui prend pied sur le sol russe, voilà, dans le but de déplacer la guerre en Russie. Objectif, déstabiliser les troupes de Poutine. On a un article assez complet dans le Parisien ce matin que je vous lis. Et après, je vous lis. Article d'Inès Chayeb. Les intentions sont désormais claires. Après plusieurs jours de silence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est donc revenu samedi soir dans une allocution vidéo sur les opérations en cours dans la région russe de Koursk. Hein, Koursk, ceux qui s'intéressent à la Russie rappellent que ce nom est associé à un drame qui avait frappé un sous-marin il y a quelques années militaire russe. Et affirmé qu'elles étaient menées dans le but de déplacer la guerre en Russie. Dans le même temps, un responsable ukrainien a déclaré que l'objectif était de déstabiliser l'ennemi. Un coup par surprise qui représente, selon Emmanuel Dupuis, qui est un chercheur en relations internationales, la première victoire militaire de l'Ukraine depuis plus d'un an. Ces derniers mois, la situation semblait figée hein, sur le front, vous savez, avec un front qui est quasiment gelé, avec l'armée russe qui arrive à grignoter mètre par mètre un peu de territoire ukrainien, et un front qui ne bouge plus beaucoup. Avec cette opération, l'Ukraine a montré qu'elle pouvait reprendre l'initiative. De ce côté, l'armée russe a reconnu que des troupes ukrainiennes s'étaient effectivement enfoncées en profondeur dans la région de Koursk, mais assuré avoir stoppé ces avancées. Les troupes et le matériel mobilisés à Koursk peuvent laisser penser qu'il s'agit d'une opération vouée à s'installer dans le temps, donc pas juste un one-shot pour un jour ou deux pour l'image, mais quelque chose qui pourrait durer. Samedi, un responsable ukrainien a assuré que des milliers d'hommes, milliers de soldats ukrainiens étaient mobilisés sur cette opération. Un chercheur indique que les brigades ukrainiennes qui ont mené cette incursion sont des brigades ultra performantes, dotées d'une formation occidentalisée. Par ailleurs, des engins habituellement utilisés pour creuser des tranchées ont été repérés, ce qui peut vouloir dire que l'armée ukrainienne est là pour prendre des positions sur le long terme, ce qui est assez étonnant pour ceux qui suivent ce conflit. Samedi, Kiev a assumé que l'incursion visait initialement à détourner les forces russes des régions ukrainiennes de Kharkiv au nord-est et du Donbass à l'est, où l'armée ukrainienne est en difficulté. Des axes sur lesquels l'armée russe grignote du terrain depuis plusieurs mois, ce que je vous disais, face à des troupes ukrainiennes qui manquent de moyens humains et matériels. Toutefois, cette opération pourrait s'avérer périlleuse également pour l'armée ukrainienne, car celle-ci mobilise beaucoup de moyens qui ne sont plus du coup disponibles, évidemment, sur les autres fronts. Fin de l'article. Pour le chercheur Olivier Kampf, l'objectif de cette incursion n'est pas tant militaire que politique. Alors que Volodymyr Zelensky a récemment invité des représentants russes à se rendre à un sommet de la paix, hein, donc il y a une petite musique où du côté ukrainien on commence à dire « et si on se mettait autour d'une table peut-être pour négocier une paix ?» Eh bien, pour négocier, il faut être en position de force. L'idée, ce serait de pouvoir dire aux Russes « écoutez, vous libérez une partie des territoires ukrainiens que vous avez envahis et en échange, on se retire de la région de Koursk. » Voilà, ça pourrait être ça. Voilà. La question pose Erion dans le chat, est-ce que ça pourrait pousser la Russie à envisager une sortie du conflit pacifique ? Je n'ai pas la réponse, c'est une bonne question. Ouais. Y a KZ qui dit qu'on ne m'entend pas assez fort. Est-ce qu'on m'entend assez fort ? Ou est-ce que vous voulez que je monte ? Ou est-ce que c'est KZ qui doit monter son volume ? C'est vous qui me dites. C'est très bien, me dit juste. C'est OK, me dit... Epic Miss Lethal, c'est bon pour moi, me dit Kilo César. Non, c'est bon comme ça. Bon, bah, il faut que tu montes un petit bon chouchou. Ok. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Bon, ça, on l'a vécu il y a quelques jours ici, quand on a appris que l'armée ukrainienne prenait position sur le sol russe, qui est surréaliste. Les Russes ont été extrêmement surpris. Et donc, l'idée, ce serait évidemment pas que la Russie, pas que l'Ukraine envahisse la Russie. Ils n'ont absolument pas les moyens humains et militaires, mais ce serait éventuellement à une table de négociation, être en position de force pour pouvoir négocier avec les Russes, avec Poutine. Enfin, c'est ça l'idée. Le problème, c'est qu'ils envoient des forces militaires ailleurs que sur le front et ça peut les affaiblir par ailleurs. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Mais ça, on le suit quasiment quotidiennement sur cette chaîne. Ok, on enchaîne avec le Proche-Orient. Vous voyez que d'ailleurs, cette question ukrainienne, elle est également à la une du Monde. Hein. Dernière édition du Monde, Kiev inflige un revers symbolique majeur à Poutine. Ouais, comme quoi, c'est assez important. Je vous ai monté un petit peu le son. Hop. Allez, je vous montre le son. Alors, je vous ai mis 4 dB en plus. C'est énorme ! C'est énorme ! Hein, c'est plus fort là. Bah, je vous ai mis plus fort. Le Proche-Orient, on n'oublie pas aussi la guerre à Gaza, le génocide, disent certains, et j'utilise exprès ce mot parce que ces mots est utilisé par l'ONU. On va voir ça dans un instant. Dernier refuge des Gazaouis, les écoles sous le feu des bombes. Donc ça, c'est le fait que les écoles dans la bande de Gaza soient bombardées par l'armée israélienne. Je dis bien des écoles au pluriel. La mort d'au moins 93 personnes dans un établissement de Gaza City, touché samedi par des frappes israéliennes, a causé un tollé international. On va juste vérifier le bilan, parce que je crois que le bilan a été révisé à la baisse par les Palestiniens. Voilà. Donc il est peut-être, ce qui n'enlève rien à l'horreur du truc. Hein. École, bilan. Ouais, je vérifie juste le bilan, ce qui ne change rien à l'horreur du truc, pareil. Alors, j'ai pas de nouveau bilan, hein. On est toujours sur 93. Au moins 80 morts. Plus de 90 morts. Bon, on est sur... voilà, ce sont les bilans que je trouve dans les médias. Voilà. Je reviens à l'article. Donc, la mort d'au moins 93 personnes dans un établissement de Gaza, établissement scolaire, hein, touché samedi par des frappes israéliennes, a causé un tollé international. Aucun doute sur l'origine des frappes, puisque Israël a reconnu avoir frappé l'école. Voilà. Dans la nuit du vendredi à samedi, la mosquée d'une école dans la ville de Gaza a été touchée. Trois missiles se sont abattus sur l'établissement scolaire qui servait d'abri, à des centaines de déplacés. Des Palestiniens s'apprêtaient à accomplir leur prière de l'aube. Le bilan est très lourd. Au moins 93 personnes, selon Libération, ont été tuées, dont 11 enfants et 6 femmes, selon la défense civile de Gaza. Des images difficiles montrant ce week-end des corps sans vie, enveloppés dans d'épaisses couvertures, et des familles en pleurs auprès des sacs mortuaires à même le sol. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières depuis le début d'une guerre interminable, écrit Libération ce matin, dont le bilan total approche des 40 000 morts. L'armée israélienne a reconnu avoir mené ce raid, je vous le disais, tout en minimisant le nombre de victimes. Les frappes réalisées à l'aide de trois munitions précises, ce sont les termes de l'armée israélienne, afin de limiter les pertes civiles, ont permis d'éliminer, selon l'État hébreu, au moins 19 terroristes du Hamas et du djihad islamique. Elle accuse les membres de ces groupes armés de se cacher parmi les habitants réfugiés dans les écoles, les hôpitaux, les zones humanitaires. Voilà, ça c'est le discours, vous savez, d'Israël, du gouvernement israélien et de l'armée israélienne. Hein, oui, on frappe les hôpitaux, oui, on frappe les écoles, parce que des membres du Hamas ou du djihad islamique se cachent dans ces établissements. Le Hamas, lui, affirme qu'aucun combattant ne figurait parmi les victimes. Ce énième bombardement, écrit Libération, contre une école, parce que ce n'est pas le premier, qui constitue, le rappelle le journal, une grave violation du droit international humanitaire, a provoqué de nombreuses réactions à l'étranger. Du côté de l'ONU, il est temps que ces horreurs qui se déroulent sous nos yeux prennent fin. Hein. Du côté des États-Unis, profonde préoccupation après ces frappes, voilà, tout en continuant à fournir des armes à son allié israélien. Du côté de l'Europe, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, s'est pour sa part dit horrifié par les images de cette attaque. Ces dernières semaines, l'armée israélienne multiplie les attaques contre les écoles, explique Libération, où des milliers de civils ont afflué depuis les premiers jours de la guerre. Les établissements scolaires sont devenus l'un des derniers refuges des habitants qui tentent de fuir les combats acharnés. Aujourd'hui, il y a c'est un constat, hein. C'est pas une analyse. Il n'y a pas d'endroit dans la bande de Gaza où la population civile est à l'abri, puisque l'armée israélienne frappe, y compris dans des zones où elle est censée ne pas frapper, y compris contre des écoles, y compris contre des hôpitaux. Fin de l'article, et ça c'est intéressant. Parce que vous êtes un certain nombre sur ce sujet, depuis des mois, à dire pourquoi on parle de guerre alors qu'il s'agit d'un génocide. Voilà. Sur ce point, cet extrait de Libération aujourd'hui. Les organisations humanitaires assurent qu'il n'y a plus aucun endroit sûr dans la bande de Gaza. La rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, qui s'appelle Francesca Albanese, vient de déclarer ceci. Israël commet un génocide des Palestiniens. Un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois, une zone de sécurité à la fois. C'est Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, qui le dit. Voilà. Donc ça n'est pas... C'est une position... Voilà. Dans ce débat, que je trouve essentiel, savoir c'est ce à quoi nous assistons à Gaza, dans la bande de Gaza, est un génocide, avec la définition juridique dans le droit international du génocide, génocide, pas génocide, cette responsable de l'ONU répond génocide. Voilà. Sujet sensible, bah, je fais appel à votre sens des responsabilités pour, même si vous n'êtes pas d'accord sur le sujet, arriver à en parler. Tu fais peur quand tu réfléchis. Non, je vous lis en fait. Je trouve ça intéressant. Les pays musulmans voisins n'accueillent toujours pas les réfugiés palestiniens. Non, Coco Lastico, toujours pas. Vous êtes plusieurs comme petits poulets à dire pourquoi personne ne fait rien. Tu parles de la communauté internationale. Au travers de mois de lecture sur le sujet, moi, il y a vraiment une déclaration qui m'a marqué. C'est celle d'un spécialiste, un chercheur spécialiste de la région qui dit la seule solution à la situation d'aujourd'hui, la seule solution à ce conflit qui dure depuis très longtemps, elle ne peut venir que de la communauté internationale. Seule la communauté internationale, donc les pays occidentaux, les États-Unis... les grandes puissances, les pays de la région, seule la communauté internationale peut imposer une solution de paix à la région. Voilà. Et ce même chercheur disait, il y a assez peu de chances que ça arrive. Mais c'est la seule solution. Voilà. Moi, je suis resté là-dessus. Il y a Pepper Jones, ils n'ont pas déjà essayé. Moi, je dirais, oui, mais pas assez fort. Mais pas assez fort. Il faudrait. Je crois que la seule solution, ce serait une initiative diplomatique ferme, d'ampleur, de la communauté internationale. Ça veut dire les pays de la région, les pays arabes de la région, de l'Union européenne, des grandes puissances, États-Unis, Chine, notamment, pour imposer à Israël et à tous les acteurs de ce conflit. Une solution de paix, quoi. Voilà. Voilà. Et ce chercheur disait, il y a assez peu de chances que ça arrive, mais c'est la seule solution. J'espère, je fais le vœu de vivre, de connaître cette paix dans la région de mon vivant. Je n'en suis pas sûr. Mais j'espère. Voilà. Bon, le Proche-Orient, on en parle quasiment tous les jours sur cette chaîne. Mais ça me semble important. Un dernier article. Après, on voit si on enchaîne avec un stream gaming ou si je fais une petite pause. Sur la situation politique en France. Alors, où on en est ? Ben, nulle part, puisque... Le président Macron a décrété une espèce de trêve en disant que jamais il ne nommerait un Premier ministre, un nouveau gouvernement pendant les Jeux Olympiques, donc évidemment on ne s'attendait à rien, même si en matière politique tout est possible, et donc on est retour en gros 15 jours en arrière, toujours pas de gouvernement, on a un gouvernement démissionnaire. C'est Les Échos qui nous propose tiens, j'ai un petit message important. Un petit résumé de où on en est après la trêve olympique, donc là c'est imminent, c'est dans les prochains jours a priori, après le 15 août peut-être, le président Macron de nouveau face au fameux casse-tête gouvernemental. Situation héritée, vous savez, des dernières législatives, avec cette décision un peu étrange de dissoudre. Le succès populaire des Jeux de Paris a redonné un peu d'oxygène au chef de l'État, estime Les Échos, mais il reste sous pression pour nommer sans tarder un nouveau Premier ministre, alors qu'aucune majorité ne se dégage et que le PS s'accroche à sa candidate pour Matignon, Lucie Castet. Article de Stéphane Dupont dans Les Échos qui est assez intéressant, ce qui résume bien où on en est. C'est la fin de la trêve olympique et politique décrétée par Emmanuel Macron le 22 juillet dernier. La fin de la parenthèse enchantée des Jeux de Paris durant lesquels la France a donné une rare image de bonheur collectif et d'unité, bien loin des déchirements et crispations de la séquence électorale des mois de juin et de juillet, vous vous en souvenez. La vie politique va donc reprendre son cours dès ce lundi, estiment Les Échos, même si elle a été un peu bousculée par le succès populaire inattendu des Jeux. La France attend maintenant son nouveau gouvernement. Emmanuel Macron l'a promis pour la mi-août, une fois les Jeux achevés, on y est, le voici au pied du mur. Voilà. Ce sera probablement après le week-end prolongé du 15 août, estiment Les Échos. L'équation politique est toujours aussi difficile à résoudre, rien n'a changé. Emmanuel Macron souhaite, qu'est-ce que souhaite Macron ? Un gouvernement s'appuyant sur une majorité large et durable, qui peine à se dessiner. Le souhait de vouloir une majorité large et durable pour soutenir un gouvernement quand tu connais le résultat des législatives, tu ne vois pas bien ce qui fait sens. Bon. Le président Macron, il dit aussi qu'il veut trouver une personnalité pour le poste de Matignon, de Premier ministre, qui soit en capacité de plaire à la droite et à la gauche.
Ok.
Bon, j'ai hâte de voir ça, moi. Les noms de Xavier Bertrand, donc plutôt pour faire plaisir à, on va dire, à la droite, et de Bernard Cazeneuve, plutôt marqué par une histoire à gauche, pour succéder à Gabriel Attal, ont beaucoup circulé ces dernières semaines, mais ni l'un ni l'autre ne paraissent en mesure de décrocher ce fameux soutien indispensable des députés socialistes, notamment. Le PS s'accroche au nouveau Front Populaire, et à sa candidate pour Matignon, Lucie Castel, l'Alliance des Gauches va certainement revenir à la charge cette semaine pour qu'Emmanuel Macron la nomme, même si elle ne se fait plus beaucoup d'illusions. Hein, puisque vous savez, pour vous résumer les épisodes précédents, que le président Macron a décrété qu'il ne nommerait pas une personnalité du Front Populaire à Matignon, estimant que le nouveau Front Populaire n'avait pas assez de députés pour soutenir un gouvernement de façon stable. Voilà. Lui, il estime que la seule solution, c'est une coalition, pour faire simple, donc Macronie, droite, LR, ceux qui ne sont pas partis au RN, avec Ciotti, et les députés de gauche compatibles, c'est-à-dire hors LFI, dans l'esprit de Macron. Lui, c'est ce qu'il imagine. Après, est-ce qu'il va réussir à le faire, c'est une autre histoire. Les Échos écrivent. Le chef de l'État ne pourra plus tergiverser très longtemps. Il y a un projet de loi de finances à préparer de toute urgence, ce qui ne va pas pouvoir attendre 107 ans. Il doit en principe être finalisé mi-septembre. Projet de loi de finances, c'est ce qui permet de voter le budget et donc les crédits pour les administrations. Donc c'est juste essentiel. Bercy a certes préparé et envoyé à Matignon les lettres de cadrage, les lettres de plafond. Hein, mais il faut que ces arbitrages politiques soient rendus maintenant. Voilà. Donc Les Échos nous disent, ça a traîné, mais le président Macron va devoir nommer un Premier ministre et former un gouvernement. Voilà. Il peut être destitué s'il ne le fait pas, Elimac ? Non. Il y a un bon flou dans la Constitution, là. Il y a une zone de flou. C'est-à-dire qu'en fait, rien dans la Constitution de la Ve République n'oblige le chef de l'État à nommer un gouvernement dans une limite de temps. Il n'y a pas de timing. Ouais, il pourrait, c'est pas flou du tout, si Adrien, si. Rien, je répète, rien dans la Constitution ne donne une limite de temps au président pour nommer un gouvernement après la démission d'un gouvernement. Aucune limite de temps. S'il veut, il peut attendre jusqu'à la prochaine présidentielle. Voilà. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Alors après, évidemment, ce serait énormément critiqué. Ce serait une forme de... Appelez-le comme vous voulez. De coup d'État. Voilà. C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. C'est deux choses différentes, bien sûr. En fait, c'est intenable politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se dresserait contre lui, quoi. S'il faisait ça. Donc, à suivre. Voilà. À suivre. Les solutions, on les a évoquées, hein. Gouvernement technique avec un gouvernement de hauts fonctionnaires qui n'a pas de couleur politique, mais ça veut rien dire. Chaque personnalité a forcément une orientation politique. Et il faudrait que ce gouvernement technique de techniciens, de fonctionnaires, de spécialistes soit soutenu par l'Assemblée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une motion de censure qui le vire. Donc ça c'est un énorme point d'interrogation. Le président Macron, lui, le rêve d'une coalition droite, gauche compatible et centre pour soutenir un Premier ministre de son choix. Bon, il faut trouver une majorité derrière ça. Il refuse de nommer une personnalité du Nouveau Front Populaire. Hein. Voilà. Sachant que si la situation continue à être bloquée, sa démission ne changerait rien, puisqu'il y a un cooldown sur la dissolution qui fait que le nouveau président ou la nouvelle présidente élue, là, à la rentrée, par exemple, si le président Macron démissionnait, ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée avant un an. Enfin, ils font un an entre deux dissolutions, même avec un nouveau président ou une nouvelle présidente. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président Macron, pour débloquer la situation, démissionnait, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. Voilà, il faudrait attendre un an, en gros. Si Marine Le Pen, en gros, était élue ou Jean-Luc Mélenchon, qui sais-je, elle ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée. Donc on aurait le même problème, quoi. Gros blocage. Ouais. Ou moi, non, je peux pas, moi. Moi, je suis occupé, j'ai plein de trucs à la rentrée. Pourquoi avoir dissous Miss Satine? Ben, je sais pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est très subjectif, c'est mon analyse. La dissolution de l'Assemblée par le président Macron, c'est une gigantesque connerie. Voilà. Bon, c'est qu'il n'a pas beaucoup de sens. On a une espèce de pari qu'il a perdu. Voilà. C'est une mauvaise analyse de la situation politique. Voilà les amis pour la revue de presse de ce matin. C'était un plaisir de vous avoir avec moi ce matin. Pourquoi je prends un accent du sud alors que je suis breton? Enfin, breton et suisse. Merci Kiripoux pour le 34e mois. C'est beaucoup quand même. Hein. À quand le prochain stream Elden Ring? Peut-être dans une heure, je sais pas. Le matin. Ouais, je sais pas. Pour ça, il faut que j'aille prendre mon... Bougez pas. Parce que je pense que je vais faire une petite pause d'une heure. Ouais, je suis suisse. Tetrium. Ah oui, à la base. Bah, The Mister CH. Mon pseudo de gamer. CH, c'est la configuration alphabétique. Je suis suisse, moi, à la base. Enfin, suisse et breton. Mais contrairement à certains Français qui partent en Suisse pour les impôts ou pour le travail, moi je suis un Suisse qui tombe amoureux de la France. Donc je suis Suisse à la base. Suisse breton. Alors, j'attendais un mail important. Ah non, pas pour Chibre. Ah non, Mister CH, c'est pas Monsieur Chibre, c'est Monsieur Suisse. Bon, moi j'ai pas de mail. Laissez-moi regarder. Voilà, parce que j'ai une annonce à faire en fin d'après-midi. Alors, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok. Non, c'est bon. Ok. Alors, je vous confirme qu'en fin d'après-midi, je vais poster un petit visuel sur les réseaux sociaux pour vous annoncer un bel événement mercredi soir autour d'Apex. Et de la pizza, voilà. Donc ça, c'est mercredi soir 20h. Je poste le visuel en fin de l'après-midi, on va bien rigoler. Du coup, ben, je vais faire une petite pause là pour manger un petit peu. Pour manger un petit peu, préparer ce truc-là. Et après, cet après-midi, je vais faire un stream gaming. Alors, je sais pas si je fais Elden Ring, Valo ou Apex. Je pense que je vais essayer d'installer Apex. Ça peut être rigolo. Il paraît que c'est super dur. Les trois ? Ah non, pas les trois. Elden Ring, Valo, Apex. Apex, tu vas te faire dérouiller ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, peut-être que je l'installe. Ou alors, je fais un Valo cet après-midi et un Apex cet après-midi. Et un Apex ce soir. Mais je vais quand même installer Apex cet après-midi. Ouais. Demain soir, tu stream ? Ouais, demain soir, au stream, ouais. Ouais, je pense, ouais. Puis après, jeudi matin, je pars en week-end pour aller voir mes enfants qui sont avec leur grand-mère. Ils se régalent, ils adorent leur grand-mère. Ils passent un peu de vacances là-bas. Mais j'emmène mon setup portable. Donc je streamerai quand même en Franche-Comté, qui n'est pas très loin de la Suisse. Tout est lié. Ouais. Ouais, tu peux apprendre le jeu en terrain d'entraînement. Tu joues en Apex en équipe avec qui ? La carotte sévère, vous le saurez vers 17-18h. N'oublie pas la crème solaire. Ouais, putain, je sais, ouais. Catastrophe. Bon, bah merci pour ce matin, c'était bien en vrai. Je n'en reviens pas que vous soyez aussi nombreux, c'est super cool. On va faire profiter un streamer, une streameuse de cette belle communauté en faisant un raid. Il y a qui en live là ? Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il dit, mon ami, là ? Ok. Ouais. 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 Je regarde vos propals. Ouais, c'est des bonnes idées, en vrai. Ok, bah si, bah écoutez, ouais. Ok. Ok, c'est parti, ouais. Vous êtes plusieurs à me proposer une streameuse que j'aime beaucoup, hein, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un qui même a été ma mate, l'une de mes deux mates à la Zilan. Voilà. Il y avait Sunday et il y avait Anae, voilà, qui était une parfaite mate à la Zilan, tellement super, et qui s'est mise à Valo là depuis là. Voilà, et elle est en stream Valo là. Et bien, vous savez quoi? Il y a du monde déjà, mais on va, c'était la team As. Anae, Sunday, Samuel. C'est pas nous qui avions trouvé ce titre, mais c'est comme ça qu'on nous a baptisé la team As. Trop chelou. Donc on va rejoindre un des membres de la team As. Voilà. Anae, qui est juste formidable, qui est aussi sympa, qu'elle est sympa. Voilà. Je charge le raid. Anae qui a démarré Valo il n'y a pas longtemps, qui est déjà bronze 3. Ça me dégoûte. Ok, passez un bon lundi, une bonne semaine, un bon début de semaine. On se retrouve dans une heure, voilà, pour un petit stream gaming. Ok, c'est parti, on va voir Anae. À tout à l'heure les amis, merci pour ce matin, je me suis régalé. Prenez soin de vous, ciao ciao.
Tu peux me donner le reste, il est en train de pêcher dans le dos lui.
Putain
Anae, tu...
Caché dans le petit coin là comme un rat.
Ah ouais?
Ouais, il était sur le wall.
On the wall, on the right side.
Il y a celui-là qui
marche dans la côte sur le wall à droite.
Merci beaucoup.
Il est redescendu, ouais. Maintenant.
Le raid exceptionnel.
Allez, prends ton temps, BG, tu vas y arriver. Joue vite, mangeur. Elle a ulti, elle va essayer de te rush. Super, encore. Nice, super, joue plus. Il y a le spike juste en dessous de toi, t'es pas obligé de jouer. Macharné. Il a l'ulti et tout. T'es pas obligé de jouer, tu peux jouer encore plus reculé à droite. Je te donne l'info de ton pote. Quand il pique, tu piques. Il a pique, il est déjà à gauche. Il va ulti, il faut que tu ailles l'aider là.
Merde.
En bas à gauche, en face de toi. Il va sans doute ulti, il faut que tu fasses vite. Juste que tu tues. Voilà, non, tu l'as vécu. Trop bien, trop fort.
Avec ton magnifique marteau là.
Merci beaucoup pour l'aide. Bienvenue beaucoup, putain.
Ouais.
complètement bourré.
Ouais, le raid, ouais.
Samuel Etienne, ouais.
Mais bravo, mais merci. Let's go.
Trop contente, moi, attendez. Merci beaucoup, let's go, bienvenue. J'espère que ça va. Vous avez passé un bon stream. Let's go. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quand est-ce qu'on joue ensemble, Sam? Ça pourrait être trop cool là, regardez mon marteau comme il est trop beau. Je suis trop contente, je suis contente d'avoir clutch et vous êtes arrivé au pile à ce moment-là, trop contente.
Désorientée,
ok. Marteau à 40 balles. Merde, putain, j'entendais mon pote. Je deviens fou, oh non. Je fais n'importe quoi.
Ah, c'est du B, je pense.
C'est du B, je pense, il a dit. Ils sont 1000 sur A.